Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle de technologie, internet et gadgets. Vous le savez, c'est l'émission qui vous résume l'actualité tech, qui fait une veille monumentale de chaque jour, de chaque instant, de chaque minute, pour vous livrer un résumé beaucoup plus digeste qui vous permettra de savoir exactement ce qui s'est passé d'important dans le monde de la tech sans que vous ayez à scruter chaque magazine et chaque article qui sort. Nous sommes en novembre 2013, je suis Patrick Béja, j'ai l'honneur de vous accueillir dans cette émission et j'ai aussi l'honneur d'accueillir deux co-animateurs de talent, à savoir Guillaume, qui est déjà venu régulièrement dans l'émission. Comment vas-tu, Guillaume ?
Salut Patrick, ça va très bien.
Tu es le spécialiste du chiffre, tu manies les données chiffrées comme des nunchaku de ninja statisticien.
Voilà, j'essaie, oui. Et alors, je remarquais un truc, c'est la dernière fois que tu m'as invité, c'était pour Prism, c'était en juin, et l'émission avait duré 2h10. Si tu veux, on peut essayer de battre le record.
On va peut-être éviter. J'ai beaucoup de notes, comme toujours, mais c'est peut-être des sujets un petit peu moins essentiels que Prism. On verra, on sait jamais, parce qu'on a aussi un autre invité, à savoir Ulrich de Frandroid ou Humanoid, je sais plus comment il faut t'appeler maintenant. Comment vas-tu, Ulrich?
Ça va très bien. Le petit truc, c'est Humanoid, c'est le groupe média, et maintenant on a plusieurs marques médias qui ont toujours le même positionnement, c'est-à-dire des sites spécialisés autour d'un écosystème mobile. On a Frandroid, Frawin, et bientôt on sera sur iOS.
Magnifique. Et certains qui t'ont déjà entendu dans les émissions, je ne sais plus si t'étais venu dans le Rendez-vous Tech, je sais que t'es venu une ou deux fois dans Upload.
Alors, je suis venu dans Rendez-vous Tech, mais il y a très longtemps.
Je ne m'en souviens même plus.
Il faut dire que certains documents que tu partages sur Google Drive, je les avais déjà en fait.
Ah oui, mais oui, je sais, je t'ai réinvité, mais tu étais déjà dans les documents. Et donc, ces personnes qui se souviendront de toi se souviendront aussi que la qualité du son de ton micro est là largement améliorée, donc j'apprécie particulièrement. Le son est magnifique là.
Merci. Donc, j'ai acquis, comme je le disais tout à l'heure, un micro pour les gamers et je suis pas un gamer PC, plutôt console, mais il faut dire qu'ils ont du très bon matériel.
C'est vrai.
Pas très cher.
Oui, mais c'est vrai que bon, j'ai republié il y a pas longtemps sur mon blog, sur patrickbeja.com, les conseils pour débuter dans le podcast, pour faire un podcast audio facilement. Et l'un des conseils, c'est effectivement d'avoir un micro casque tout simple et d'enregistrer par Skype. Et ils sont pas si chers que ça et ça donne un son vraiment de qualité. J'imagine oui. Que celui-là, tu l'as payé combien? 30-40 euros, non?
Voilà, je crois 25 oui. euros. Ah, ça. Il s'appelle le Earforce PX21.
Oui.
C'est Turtle Beach qui fait ça. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a plein de marques. Ils sont pas très beaux. Hein. Ils sont très imposants. Les micros sont pas très très beaux. Moi, je trouve que ça fait vraiment gamer.
Oui.
Mais c'est hyper efficace. Le son est hyper bon pour le prix. J'aurais presque envie de me balader avec dans la rue pour écouter de la musique. Mais il y a de la basse. Pour avoir une qualité de son comme ça, faut investir plusieurs centaines d'euros dans un casque audio classique.
Mm. Ouais, bon, je sais pas si c'est à ce point-là, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que faire du podcast, par exemple, c'est largement suffisant. C'est la beauté de ce média. N'importe qui peut le faire à moindre frais. Donc voilà. La petite minute techno-podcaster technicien est terminée. Donc on va se lancer dans les informations, les trois infos principales à retenir de l'émission. On va vous parler beaucoup de Google. C'est une émission assez Google-centric aujourd'hui, si on veut parler anglais. On a bien sûr des informations sur le nouveau téléphone de Google, le Nexus 5. On a des informations un petit peu plus industrie, mais intéressantes de Samsung et du coup de Trafalgar qu'ils sont en train de faire à Google, ou peut-être que c'est pas le cas, mais on en discutera. Il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent. Et puis aussi, certains d'entre vous me l'ont mentionné sur Twitter. Quand je dis certains d'entre vous, je suis gentil, je l'ai reçu pas mal de fois. C'est le fameux ARA de Motorola, qui est là encore une propriété de Google, hein, la société Motorola a été rachetée. Et c'est une sorte de PhoneBlocks. Et j'avais dit de manière assez véhémente il y a quelques semaines que PhoneBlocks ne pouvait pas marcher. Donc, et je vous expliquerai pourquoi ces choses-là sont un petit peu différentes. Et puis, on va en discuter tous ensemble. Il y aura d'autres choses, bien sûr, en plus de ça. Mais commençons tout de suite avec le gadget qui fait plaisir aux fans de technologie, qui fait frétiller surtout les fans d'Android. C'est le Nexus 5 qui a été... Bon, on a eu des rumeurs depuis des semaines et des semaines. C'était plus un secret pour personne. Mais il a enfin été dévoilé. C'est le nouveau téléphone, ce qu'on appelle en anglais un flagship. Donc, le téléphone, comment dire, le principal...
Le phare,
oui, c'est ça, le téléphone phare de Google, qui est donc un téléphone comme toute la gamme Nexus, qui vous propose une qualité de produit et un rapport qualité-prix absolument invraisemblable. C'est-à-dire que vous avez un téléphone d'excellente qualité, un milieu haut de gamme qui tire vers le haut de gamme pour un tarif de milieu de gamme, même bon marché. Pour résumer très rapidement, on a donc un appareil qui s'appelle le Nexus 5, qui est en gros calqué sur le LG G2, à quelques différences près, qui a un écran 5 pouces 1080p, un processeur Snapdragon 800, qui est donc un processeur de très bonne facture, qui est très rapide, un appareil photo 8 mégapixels, et pour la version 16Go, on a tout ça pour 349€. Une version à 32Go à 399€. Bon, il est en rupture de stock en ce moment, c'est pas très surprenant, mais il reviendra très bientôt. Et je me tourne évidemment vers Ulrich pour la première question. Google a refait le coût du téléphone ultime pour ce prix-là. C'est le téléphone à choisir, à ton avis, ou...
Alors, c'est pas les meilleures caractéristiques du marché. Je veux dire, le capteur photo est très bon, d'après les premiers résultats, mais c'est pas le meilleur. On trouvera des meilleurs capteurs chez Nokia ou chez Sony. L'écran est très bon, pour le coup, rien à redire sur l'écran, rien à redire sur le processeur. Snapdragon 800, c'est vraiment la référence actuelle aujourd'hui sur les téléphones de gamme. Et après le reste, on a un téléphone qui a une qualité de fabrication, d'après les premières impressions, qui est un peu en dessous de ce qu'on peut trouver chez HTC ou Sony, par exemple.
Ça reste du plastique, du plastique qui n'est pas de mauvaise facture.
Voilà, ce qu'on appelle soft touch, c'est pour ceux qui ont pris en main équivalent à la nouvelle Nexus 7. Voilà,
d'accord.
En termes de sensation.
Ok. J'ai entendu dire que l'appareil photo n'était pas, enfin que l'appareil photo en lui-même, le capteur était bon, mais que les photos prises à cause de problèmes logiciels n'étaient pas au niveau qu'on pouvait espérer. Donc ça, c'est peut-être
sur le Nexus 5.
Oui.
Moi, j'ai eu des premiers retours plutôt positifs.
D'accord.
C'est un capteur qui est donc 8 mégapixels. On ne sait pas vraiment qui le fabrique. Certains disent que c'est des capteurs de LG, d'autres disent que c'est des capteurs de Sony. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on retrouve un petit peu de la technologie qu'on a dans le LG G2, c'est-à-dire un stabilisateur optique, qui fait que on a quand même des photos qui sont moins floues, qui sont exécutées très rapidement. Et ça, on le ressent dans les premières photos qui sont publiées sur Google Plus par certains propriétaires de Nexus 5. Je pense qu'on sur l'optimisation photo, il y aura sûrement du travail à faire, mais ça devrait aller assez vite. Je me fais vraiment pas de soucis pour ce capteur photo. C'était un des points faibles du Nexus 4. Pour le coup, Nexus 5 est vraiment meilleur.
D'accord.
Et le point faible pour moi de ce Nexus 5, c'est sa batterie, qui fait seulement 2300 mAh, tandis que les téléphones de la même gamme sont plutôt autour des 3000.
D'accord. Bon.
Oui.
Vas-y Guillaume, bien sûr, vas-y. Tu sais, dans l'émission, tu m'interromps, hein, tu commences à parler, il n'y a pas de problème. Hein, on est
D'accord. Oui, moi je m'en suis tenu un petit peu à ce que disait The Verge, et quand on regarde leur test, on se rend compte qu'effectivement, ça a l'air d'être la durée de la batterie et l'appareil photo qui serait un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait espérer. Pour l'appareil photo, il récolte quand même une note de 5 sur 10, ce qui est quand même assez faible. Après, sur le design, je trouve qu'il est assez beau. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai vu d'autres tests par rapport à la durée de la batterie et il tient difficilement plus de 24 heures d'utilisation.
À vrai dire, moi, pardon, fini, je t'interromps déjà.
Voilà. Voilà. Bon, c'est les deux points sur lesquels j'ai l'impression que ça pêche un petit peu. Pour le reste, c'est pas évident de se faire une idée parce que quand on l'a pas eu en main. Mais j'aurais quand même une question. à poser, c'est par rapport, là c'est le Nexus 5, par rapport à un, je sais pas, un Galaxy Note 3 ou un Galaxy S4, qu'est-ce qu'il aurait de mieux ou de moins bien?
Alors, le Galaxy S4, la version la plus répandue, c'est la version avec le S600. Pour le coup, je pense que le capteur photo est un petit peu meilleur, même si j'ai vu des comparaisons où il jouait quand même au même niveau que le Nexus 5. Par contre, le processeur, c'est un S600 sur le Galaxy S4 et on a à peu près 30% de performance inférieure au Nexus 5. Et par contre, le Galaxy Note 3, lui, a le même processeur, un appareil photo qui est un peu meilleur. Il y a peut-être l'écran, il y a beaucoup de gens qui aiment pas cette technologie AMOLED de Samsung, alors que la technologie qui est présente sur le Nexus 5, c'est la même que le LG G2 et c'est
qui est plutôt une bonne facture.
Du IPS, LCD IPS de mémoire en définition 1080p, c'est vraiment des écrans qui des gens et agents apprécient beaucoup. Il y avait une très bonne au niveau des couleurs, je veux dire c'est très
bon
juste.
Rendu, ouais.
Il y a un très bon rendu des couleurs, le contraste est bon.
A priori, à sa sortie, il devrait faire partie, soit être le meilleur Android, soit dans le trio de tête.
Il sera pas le meilleur Android, mais il sera effectivement on va dire, dans les cinq premiers.
Ouais. Bah, je crois que effectivement, il y a ces petites réserves qu'on peut émettre sur l'appareil photo et la batterie. À vrai dire, moi, ce que je demande à mon téléphone, c'est de me faire la journée. Ensuite, qu'il me fasse la journée plus 5 heures ou la journée plus 1 heure. Bon. Et clairement, si on veut chercher un petit peu la petite bête, l'appareil photo et la batterie sont un petit peu peut-être en deçà de ce qu'on pourrait espérer dans l'idéal. Mais à mon sens, ce qui est clair, c'est ce que je disais au départ, pour ce prix-là, c'est vraiment un appareil d'une qualité imbattable dans ce genre de gamme de prix, quel que soit l'OS d'ailleurs, qu'on parle de d'Apple évidemment, mais de Windows Phone et d'Android, dans cette gamme de prix, il n'y a pas de concurrence, je pense.
Je pense que ça prendra à peu près 6 mois aux Asiatiques pour arriver, minimum 6 mois aux Asiatiques pour arriver à un niveau à ce niveau-là, à ce prix-là.
D'accord. Bon, donc si vous êtes tenté par l'expérience Android et que vous voulez un appareil qui soit quand même performant sans complètement casser la tirelire, c'est peut-être un bon appareil à tester. Et puis d'une manière générale, si vous appréciez les téléphones Android, c'est certainement une option à considérer dans votre choix. Le Nexus 5, qu'on peut commander directement sur le Google Play Store, sur le web. Si je ne m'abuse, il n'est pas en vente dans les magasins.
Ça va arriver en fait.
D'accord.
Je pense qu'il va y avoir une déferlante au mois de novembre dans pas mal d'opérateurs parce que il était déjà apparu sur le site de Bouygues Télécom, de SFR également. Il y avait eu quelques petites fuites à ce niveau-là et
d'accord.
A priori il sera aussi dans la grande distribution, dans les magasins spécialisés, etc.
Magnifique. L'autre chose qu'a amené ce Nexus 5, bon pas directement mais c'est arrivé à peu près en même temps, c'est Android 4.4. À savoir KitKat, qu'on a déjà mentionné dans l'émission. On espérait, nous, avoir Android Queen Amman. Ah, c'est ce que je vais le dire bien ou pas.
Queen Amman,
merci. On a un breton dans l'assistant, enfin dans l'émission. Mais bon, finalement, c'était KitKat, hein, tant pis, c'est bon aussi. Et il y a donc une certaine quantité de nouveautés avec cette nouvelle version d'Android. Les plus importantes, à mon sens, il y a deux éléments extrêmement importants. D'une part, une volonté d'unifier d'unifier au maximum la base installée, c'est-à-dire que cette version d'Android est beaucoup moins gourmande en ressources et donc devrait pouvoir, a priori, être installée sur un plus grand nombre d'appareils. Bon, ensuite, on est toujours soumis à l'efficacité du fabricant de notre appareil pour le mettre à jour, mais il n'empêche que cette version, au lieu de restreindre la base installée en demandant plus de ressources, elle va dans le sens inverse et devrait pouvoir être installable sur beaucoup plus d'appareils. Et en plus de ça, Donc, l'autre axe de changement, il y en a plein d'autres, hein, mais l'autre axe principal, c'est que l'expérience Google par défaut d'Android est maintenant extrêmement présente sur l'écran d'accueil de votre téléphone. C'est-à-dire que vous avez une barre de recherche en haut qui intègre la recherche Google dans son ensemble, et vous avez le fameux guide Google Now qui est extrêmement bien foutu et extrêmement pratique, que tout le monde apprécie, qui est disponible simplement en glissant de la gauche vers la droite. Donc ça vous plonge encore plus dans l'écosystème Google et ça vous simplifie.
Et on a également Google Hangouts qui intègre maintenant les SMS et les MMS. Donc là, on est vraiment dans l'expérience Google.
Exactement.
Même pour les SMS.
Alors justement, Ulrich, toi, tu es agréablement surpris, ou peut-être pas surpris, mais en tout cas, tu apprécies KitKat. Quels sont les points forts, les points faibles, l'analyse?
Moi, je suis pas hyper surpris. Ce qui me plaît, c'est qu'ils ont fait un effort pour rendre encore plus simple le système. Je sais pas si t'as vu, la barre de statut est désormais transparente. Mmh. On a également la barre avec les boutons en bas qui est également transparente. C'est des barres qui sont pas vraiment transparentes. En fait, elles vont s'adapter à l'écran qui est affiché, en fait.
Ouais, c'est un petit peu.
Dans une application verte ou rose ou violette. Ouais. Ça va s'adapter.
Un petit peu comme ce que fait iOS.
Oui.
D'ailleurs, on a perdu complètement les éléments d'interface qui sont arrivés avec la version 4.0. Vous savez, ces éléments qu'on appelait troncs, c'est-à-dire les bleus fluo, néons, qui sont
effectivement
plus présents.
Pour le coup, il faut trouver du bleu maintenant. Il y en a presque plus. Il y en a un petit peu, mais effectivement, il y a eu une volonté de Google de rendre le système peut-être plus lisse. Quand tu disais aussi qu'ils ont fait un gros effort pour rendre le système encore plus performant et surtout compatible avec des appareils avec des caractéristiques de moins en moins hautes, c'est toujours été dans la volonté de Google de pouvoir intégrer son système dans n'importe quel système embarqué. Et là, avec l'émergence de l'internet des objets connectés, ils ont bien compris que Google que Android était top of the list des systèmes qui étaient capables d'être intégrés dans tous ces petits objets.
Ouais, je pense que c'est l'aspect dont je parlais, c'était plutôt le fait, parce qu'il y a énormément de téléphones de entrée et milieu de gamme qui sont encore sous Android 2.3, et là ce qu'ils veulent, c'est que même ces appareils-là puissent être fabriqués et intégrés Android 4.4. Donc c'est peut-être un petit peu différent des appareils embarqués, mais
l'objectif affiché, c'est également de pouvoir embarquer ça dans les Google Glass, donc voilà, donc ça semble cohérent avec l'idée des objets technologiques.
Et la montre qui devrait arriver aussi dans pas trop longtemps.
Effectivement.
On entend parler de cette montre Google Now.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez testé la Smart Forge 2 de Sony ou encore la Galaxy Gear, mais ces deux montres fonctionnent sous Android. Mmh.
Donc, tout à fait, oui, tu as raison.
Et ça a été un gros effort, je pense, des constructeurs pour pouvoir un petit peu utiliser la base Android tout en la nettoyant suffisamment pour tourner sur des processeurs beaucoup plus petits, des composants qu'on trouve sur des petits boîtiers. Et je pense que Google a compris que en rendant, c'est comme ce que je te disais, je veux dire, il faut qu'Android soit la première et quasiment la seule option pour tous ces fabricants.
Je voulais ajouter deux petites choses. Moi, le côté KitKat, ça m'a posé problème parce que bon, c'est un partenariat avec Nestlé, donc les partenariats commerciaux, ça me pose toujours un peu problème parce que je me dis tant que ça va bien, tant mieux. Mais le jour où ça ne va pas bien avec le partenaire, je ne sais pas ce qu'il advient réellement de ce qui a été fait en tant que partenariat. Tant que c'était Jelly Bean, Ice Cream Sandwich, Gingerbread, etc., je trouvais que c'était des noms génériques, donc ça allait. KitKat, là, moi, il y a un côté commercial qui me dérange un petit peu.
Tu veux dire que si jamais le partenariat se rompt, est-ce qu'on ne pourra plus appeler notre Android KitKat?
Non, mais je sais pas, on sait pas jusqu'où ça peut aller en termes de décision juridique, mais.
Bon, je pense que les contrats ont été bien faits, hein, les choses.
Tout à fait, mais c'est une exception sur tous les noms jusqu'à maintenant, c'est une première exception, quoi. Là, on est sur
c'est vrai.
Produit commercial.
C'est une belle expérience, quand même. Hein.
C'est ça, belle expérience marketing, et puis c'est marrant, je veux dire, c'est un petit peu c'est quelque chose de, comment dire, de drôle, quoi. C'est Android KitKat, personne s'y attendait, ils ont toujours fait des desserts.
Ils ont été assez transparents sur le deal, hein, parce qu'ils ont bien précisé qu'il n'y avait pas eu d'échange d'argent. Bon, après, on peut imaginer ce qu'on veut. Ils ont bien précisé les cadres du contrat, c'est-à-dire les opérations qui seront mises en place avec les barres de KitKat à l'effigie d'Android, avec les Nexus 7 qu'on peut gagner en mangeant des KitKat, les
ça
pays où
point,
on pourra trouver
point,
ces tablettes, le nombre de tablettes qui ont été créées. Enfin voilà, ils ont été quand même.
Et puis chercher un nom qui commençait par un K, j'imagine que ça ne devait pas être si simple que ça. Et l'autre petite chose que je voulais dire, effectivement, c'est l'OS. On dit qu'il se pourrait se destiner à des smartphones qui auraient 512 mégaoctets de RAM, ce qui signifierait qu'un Samsung Galaxy S1, oui, effectivement, ce que tu disais, Patrick, tout à l'heure, qui est bloqué en 2.3, pourrait passer en 4.4. Mm-hmm. Et en termes de, par rapport à l'obsolescence, tout ce qu'on a toujours dit sur l'obsolescence due au système d'exploitation, je trouve que c'est une super bonne nouvelle, puisque même un vieux téléphone pourrait embarquer 4.4.
Mais gros bémol quand même, parce que
Le problème, c'est qu'il faut que les constructeurs...
Les versions chez Jelly Bean étaient déjà compatibles avec les appareils avec 512 et Modram.
Oui, en théorie, mais ils étaient un petit peu plus lourds quand même.
Mais c'est très proche, hein, finalement. Et pourquoi on ne trouvera jamais un Galaxy S1 ? Faut quand même le dire aux gens, parce qu'il y a toujours des problèmes de driver. C'est des architectures qui sont utilisées dans ce type de téléphone, sont plus supportées. Il y en a beaucoup qui, par exemple, fonctionnent avec Texas Instruments, qui a fermé sa filiale dédiée aux processeurs grand public, comme ça. Et puis même ceux de Qualcomm ou encore ceux de Nvidia qui sont plus supportés, ça bloque vraiment les...
Peut-être qu'en disant Galaxy S1, j'ai un peu forcé le trait, mais par exemple, le Galaxy S2, je sais qu'il peut encore aller jusqu'en 4.2. Moi, j'ai un Galaxy S2. Bon, pour l'instant, ça ne ralentit pas. Je suis assez content, donc... Tu veux dire par là qu'on aura difficilement une tablette Arcos embarquant du 4.4 si on pousse vraiment le trait au maximum.
Oui, c'est
ça
sûr.
Dépend s'ils sont sur du MediaTek. Et je sais pas, les MediaTek, je me dis qu'ils ont peut-être plus de chances d'être supportés un peu plus longtemps, mais bon.
Et la dernière petite chose que je voulais dire, c'était que ça peut résoudre en partie le problème de la fragmentation, qui est encore aujourd'hui, souvent on dit que c'est la plaie d'Android, et pour moi, ça ressemble un petit peu à une réponse que donnerait Google à Tim Cook lorsque, en septembre dernier, ce dernier disait que la fragmentation rendait Android obsolète. Et j'ai la sensation qu'avec cette démarche-là d'essayer de faire en sorte que le 4.4 puisse être intégré partout, c'est d'essayer de corriger ce problème de la fragmentation.
Tout à fait, oui. Non,
on parle beaucoup de la fragmentation, mais... Nous, on a un avis chez Humanoid, chez Frandroid, c'est que la fragmentation n'existe pas vraiment. Elle existe, mais pas autant qu'on veuille le faire croire. La vraie fragmentation logicielle, c'est vraiment quand une version est incompatible. Aujourd'hui, vous pouvez demander à n'importe quel développeur, développé sur 2.3 ou développé sur 4.4, il n'y a pas d'énorme frein.
Non, mais c'est pas ça le problème, Ulrich. Le problème, c'est que quand tu veux développer sur ces appareils, effectivement, si tu mets ton application, elle risque de marcher, mais il faut tester surtout. Il faut avoir différentes tailles d'écran, un grand nombre de tailles d'écran. Donc, il faut que ton interface soit adaptée à toutes ces tailles d'écran, etc., etc.
Mais un bon code Android permet normalement, quand on développe bien son Android.
Oui, bien sûr, mais c'est quand même plus compliqué que si tu as un système où tout le monde est sur 4.4. Si tout le monde est sur 4.4, c'est plus simple. Ça simplifie les choses.
Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont la perception du développement sur iOS qui est assez spécifique, avec un langage assez spécifique, une façon d'appréhender le design qui est spécifique. Sur Android, on n'a pas du tout cette même approche, et j'ai l'impression que c'est un petit peu perverti le développement mobile iOS. Et
ouais, moi, je crois que... Écoute, moi j'écoute beaucoup de développeurs, et mon impression, c'est qu'effectivement, l'avis est assez unanime. C'est pas impossible de développer sur Android, évidemment, mais c'est quand même plus compliqué, et les choses iraient mieux si plus d'appareils étaient sur la même version de l'OS.
Il y a eu des gros progrès pour les développeurs qui écoutent.
Des progrès, bien sûr.
Il y a, par exemple, Genie Mobile qui a sorti Genie Motion, qui permet de vraiment lancer un Android sur son PC. Oui. Ça, c'est très pratique pour développer. On peut simuler n'importe quel Android. C'est même pas de l'émulation, c'est un vrai Android qui tourne. avec une accélération logicielle. Du coup, on a vraiment l'impression d'avoir une tablette sur son PC. On a également Eclipse qui commence.
Non, bien sûr. Enfin, excuse-moi, Eric, on va pas
utiliser. Ouais, bah, on désolé va... de rentrer dans les détails.
Non, non, mais... c'est vrai. Mais disons que ça serait un débat. La question du développement sous Android et de la comparaison entre le développement sous Android et les autres plateformes comme iOS et Windows Phone aurait besoin d'une émission entière. donc peut-être qu'on la fera un jour, mais j'aimerais continuer à avancer sur les différents sujets parce qu'on a un gros programme.
Et concernant KitKat, moi la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités du Nexus 5 qu'on met en avant. C'est le cas par exemple de Google Now qu'on peut réveiller par la voix à tout moment en faisant.
Mais c'est vrai,
okay,
j'oublie
Google.
Ça. Comment est-ce que j'ai pu oublier cet aspect qui est important, oui.
C'est aussi le cas, je crois, de l'appareil photo avec l'HDR. C'est des mm-hmm. fonctions qu'on retrouve que seulement sur le Nexus 5 et qui sont quand même des choses très mises en avant pour KitKat Android 4.4.
Mm. Tout à fait, oui.
Dommage.
Continuons à parler justement de bases installées et de choses comme ça. Et là, je vais me retourner vers notre ninja statisticien ou statisticien ninja. Les dernières analyses des cabinets qui font ce genre de choses nous disent que. Alors, je sais pas si t'as lu ces rapports là.
Oui, je les ai lus.
D'accord.
C'est toujours délicat de parler de produits vendus quand en réalité, lorsqu'on regarde les OS utilisés, bah, on se rend compte qu'il y a quand même une espèce de, il y a une grosse différence quand même entre les deux. Mm. C'est-à-dire que ce qui est, enfin la production et ce qui est vendu effectivement ne correspond pas du tout à ce qu'on observe en termes d'utilisation.
Bien sûr. Là, en l'occurrence, si on parle de bases installées, pour le troisième trimestre de l'année 2013, on a des mouvements assez intéressants. C'est-à-dire qu'on a, d'une part, pour Android, une base installée de plus de 80%, ce qui est quand même très impressionnant. On parle uniquement du troisième trimestre. Hein. iOS est bien plus bas à 13,4%, ce qui est vraiment très très bas, et Windows Phone à 4,1%. Alors là, on parle de chiffres mondiaux, hein, de chiffres globaux. Donc évidemment, les choses sont un petit peu différentes si on parle de l'Europe et des États-Unis. On a vu d'autres analyses qui montraient qu'on était à plus de autour de 20-25% pour iOS, ce qui est pas très surprenant, et plus de 10% pour Windows Phone. Et c'est là que j'ai été vraiment surpris. On nous a souvent reproché de critiquer un petit peu Windows Phone qui nous a déçus, c'est ce que j'ai dit régulièrement, et c'est vrai qu'il n'a pas tenu les promesses ce qu'on espérait voir avec le lancement Windows Phone, mais 10% sur certains marchés en Europe et aux États-Unis, enfin surtout en Europe, à vrai dire en Amérique latine, il n'y a pas de quoi rougir, hein.
Non, tout à fait. Après, c'est vrai que si on s'oriente sur une base plutôt site-centrique, c'est-à-dire que les gens qui ont des sites internet, ils regardent quels sont les téléphones qui se connectent au site.
Donc la vraie utilisation des appareils.
Voilà, l'utilisation effective avec l'OS qui apparaît dans les utilitaires Analytics. On se rend compte qu'à l'échelle mondiale, alors moi je me base sur les statistiques de StatCounter, qui est une référence en la matière, on se rend compte que les statistiques à l'échelle mondiale donnent plutôt du iOS 47%, Android 43%, c'est-à-dire pratiquement à égalité, légèrement en dessous de 50%, et puis Windows Phone à 4%. Donc on voit vraiment deux mastodontes, un petit qui vient manger tout ce qui reste, et puis là tout ce qui reste, c'est vraiment... Il n'y a quasiment plus rien. Maintenant, si on se base uniquement... là, à l'instant, c'était en fait les chiffres de la France. C'était les chiffres de la France, ce dont je parlais.
D'accord.
Et si on se base maintenant sur des chiffres mondiaux, on se rend compte que la tendance est totalement différente. C'est surprenant. Android est très largement en tête avec 40%, tandis que iOS est beaucoup plus bas avec 20% seulement. Et on se rend compte que Symbian, tout ce qui est OS Nokia, donc il y a Symbian mais OS, mais il y a aussi Series 40, je ne connaissais même pas, mais c'est un dérivé de Symbian, viennent grappiller quand même 20 et 14, ce qui fait 34%.
Oui, d'accord. Donc on est quand même, c'est marrant parce qu'on a toujours une image effectivement.
6 et 14, pardon, voilà, ça fait 20% de Symbian global, et c'est vrai que Symbian, on a l'impression que c'est quelque chose qui est derrière nous, qui est dépassé, qui n'est plus assuré par Nokia.
Mais pourtant, c'est pas forcément le cas dans tous les pays.
Ça, c'est le cas des pays en voie de développement.
C'est ça, oui.
Voilà.
C'est ça.
Mais souvent, tu parlais de Windows Phone et la différence entre ce qui est les parts de marché et l'usage, mais souvent, l'usage suit. Même si ça prend un peu de temps, les 10% sur Windows Phone, on les trouvera bientôt, hein, même sur l'usage sur les sites mobiles.
Oui, c'est toujours des choses intéressantes de voir les différences entre ces deux chiffres. C'est ce que met souvent en avant Apple en disant oui, on a une part de marché plus faible, mais nos utilisateurs utilisent beaucoup nos appareils alors que les autres, ils vendent des appareils et les utilisateurs les utilisent pas. Bon, évidemment, c'est pas tout à fait comme ça. On peut voir les choses comme ça, c'est pas tout à fait exact. Le truc, c'est que Android étant beaucoup plus vendu, souvent il y a des gens qui sont moins intéressés par les fonctions smartphone de leur smartphone, qui l'achètent et qui l'utilisent peut-être un petit peu moins pour ce genre de choses. Bon, ensuite on peut tergiverser effectivement longtemps sur les interprétations. Disons qu'il n'y a pas énormément de grosses surprises dans ces chiffres-là, à part Symbian peut-être dans les pays en voie de développement. Moi, ce que je voulais noter, c'est que Windows Phone se balade entre l'énorme louche, entre 5 et 10% en fonction des pays. Ce qui veut dire qu'il commence à faire un petit peu son trou. Ça peut s'arrêter là, ça peut continuer à évoluer dans un sens ou dans l'autre. Mais bon, c'était intéressant de noter parce que voilà, c'est pas quelque chose de totalement négligeable.
C'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que contrairement il y a 12 mois, on savait pas qui serait le troisième système mobile. On savait pas si ça serait Firefox, si ça serait également
BlackBerry,
parce que BlackBerry 10 était encore là. Enfin, était même pas lancé à l'époque. Mais on savait qu'ils allaient arriver avec un système très intéressant, et Windows Phone avait raté son premier lancement, Windows Phone 7. Du coup, on savait pas, sauf que cette année, 12 mois après, on sait que le troisième système est Windows Phone, et maintenant il n'y a plus de questions à se poser sur le troisième système, en tout cas dans les 2-3 prochaines années.
Et si on regarde les tendances sur du plus long terme, on se rend compte que Android mène une croissance fulgurante depuis au moins 2009, tandis que Apple, iOS est plutôt en train de stagner. Et effectivement, Windows Phone a plutôt une courbe
ascendante.
Très prometteuse pour le coup.
Mais ça, on disait, le positionnement d'Apple fait que Apple aura difficilement dans les marchés plus de 20%. Et je pense que niveau mondial, ils dépasseront pas 10%. C'est leur positionnement. Je veux dire, c'est un positionnement. Aujourd'hui, c'est des produits qui sont. C'est des produits haut de gamme. J'ai oublié le mot que j'utilisais, mais en gros. C'est le positionnement qui veut ça, quoi.
Bien sûr. Ils protègent leur marge.
Ils cherchent plus le volume.
C'est sûr.
Maintenant, ils protègent leur marge.
Enfin, oui, évidemment, ils veulent toujours en vendre plus, mais effectivement, il y a a priori. Enfin, on sait jamais, hein. Moi, je donne souvent l'exemple des iPods, qu'ils ont décliné en énormément de versions pour toutes les bourses. Donc, peut-être que ça arrivera aussi avec l'iPhone.
Sauf qu'il y a ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont bien entendu fait ça, leur marge a baissé, le marché a commencé à décliner, et aujourd'hui, je sais pas si tu as vu les derniers chiffres, justement, sur les iPods, ça s'écroule.
Alors, sur les iPods, ça s'écroule parce que ce sont les smartphones qui remplacent ce marché. Ça, ils ont eux-mêmes provoqué ce changement, justement, pour être sûr de ne pas se faire doubler. Mais bon.
Nous, tu sais, on est en train déjà de se demander qu'est-ce qui va remplacer les smartphones, et on le sait très bien, ce sera les objets connectés, et ça se trouve dans 5 à 10 ans.
Oui, peut-être. Là, c'est non, ça, bon, ça me semble être un peu plus de divination, mais peut-être.
Non, je pense pas.
Oui,
mais on verra.
On verra.
L'autre petit aspect que je voulais ajouter, c'est que là, on était sur les données qui étaient fournies, c'était sur du trimestre. Or, on sait bien que là, c'est le troisième trimestre de l'année. On sait bien qu'il n'est pas le plus représentatif.
Bien sûr.
Sachant que le quatrième trimestre de l'année correspond également aux périodes de Noël. Généralement, on va se baser sur le premier trimestre pour savoir quels sont les mouvements qu'ont eu, enfin les mouvements de janvier à mars correspondent généralement a la tendance à retenir parce que les achats de smartphones se font essentiellement aux périodes de Noël.
Oui, 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 tu as tout à fait raison. Oui, on a oublié de le préciser. Ouais, heureusement qu'on a un expert dans le groupe.
Il y a une petite donnée qui m'a bien fait sourire que j'ai vue ce matin.
Oui.
C'est The Next Web qui en parle. Je ne sais plus quelle étude c'est.
Bon,
en train de regarder. Mentionne. Et en gros, ils sont en train de dire que Windows Phone a dépassé iOS en Italie.
Ah oui, j'avais vu ça effectivement. Ça ah mais c'est pas négligeable. Hein. Là encore, c'est pas négligeable. C'est quelque chose qui a son importance. Alors c'est un point de données anecdotique peut-être, mais c'est quand même. Ça veut dire que il y a une
ah, c'est un véritable engouement. Voilà. Comme tech, c'est Kantar comme tech voilà. Qui est quand même un gros panel.
Tout à fait. Bon, on mentionnait BlackBerry très rapidement. Je vais en profiter pour placer l'information selon laquelle finalement BlackBerry ne sera pas racheté. Il y avait différentes sociétés qui étaient, en tout cas selon les rumeurs, sur en négociation, notamment des discussions avec Facebook peut-être, on avait entendu parler de Lenovo aussi. Finalement, ce qui va se passer, c'est que Fairfax, qui est un fonds, va racheter pour $1 milliard, ou je ne sais plus comment se passe le deal exactement, mais BlackBerry va recevoir $1 milliard, et ils renvoient leur président, qui est Thorsten Heinz pour le moment, enfin, qui n'est plus en fait, et ils vont donc continuer de manière pas indépendante, mais sans se faire racheter. Et BlackBerry continue. Alors,
et pas surprenant, j'ai envie de dire.
Bah, pas surprenant, oui et non. Moi, ce qui m'interpelle un petit peu dans cette histoire, c'est que finalement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne vont pas. Bon, ils vont changer de président, donc peut-être qu'il y aura quelque chose de miraculeux qui va se passer, mais ils vont continuer comme ils l'ont fait depuis 2 ou 3 ans. Peut-être qu'ils vont changer les choses de manière radicale, mais il n'y a pas de nouvelle entité qui va se reprendre la stratégie de BlackBerry. Donc,
en tout cas, il y avait deux choses qui se passaient. C'est que la première, c'était assez fou de penser qu'à quelqu'un d'ordre du continent américain, nord-américain, puisse racheter BlackBerry. BlackBerry est utilisé dans tellement de pays par tellement de gouvernements. C'est quand même le système qui équipe la plupart de l'administration américaine. Et on voyait mal une entité asiatique s'emparer de BlackBerry.
Je ne sais pas si c'est encore le cas. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup, mais tellement
mais en tout cas, ils sont très présents. Ils sont très présents en Amérique. Faux, ouais. Et l'autre chose, c'est que le gouvernement canadien était très conservateur. C'est quand même une société qui est un peu la tête d'affiche du Canada, encore aujourd'hui, sur tout ce qui est nouvelle technologie. Ils voulaient vraiment pas s'en séparer. Il y avait aucun Américain qui était capable de racheter la société, en tout cas qui était intéressé. Google avait déjà fait ses courses, Microsoft aussi.
Et Fairfax est un fonds canadien, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Donc,
ouais,
effectivement,
bah oui,
ça reste dans le...
Ça reste canadien. Je pense qu'ils sont contents, quand même.
Bon, continuons avec cette étrange affaire de Samsung qui, je crois que j'ai dit, qui fait un hold-up d'Android. C'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Samsung a fait ses annonces sur les nouveaux SDK pour ses appareils. Ce que ça veut dire, le SDK, ce sont les outils qu'utilisent les développeurs pour créer des applications pour différents périphériques ou appareils. Et Samsung avait déjà des librairies, donc des outils de développement spécifiques à ces appareils à eux. Là, ils les ont refondus entièrement et renforcé de manière à ce que les développeurs puissent développer spécifiquement pour les appareils Android, qu'ils soient d'ailleurs, on parle de téléphone, mais on parle aussi de télévision. Et ce qui était vraiment marquant, c'est que encore une fois, dans les présentations qu'ils ont faites, dans la documentation qu'ils livrent, on parle très 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 peu d'Android. C'est-à-dire que ils présentent les choses comme si les appareils Samsung étaient totalement indépendants des appareils Android en général. Il y a évidemment les outils ajoutés aux appareils Samsung qu'on connaît. Et là, il y a des outils de développement qui font que les applications conçues pour ces appareils peuvent tourner correctement et accessoirement ne pourront pas tourner sur d'autres appareils puisqu'ils utilisent des outils spécifiques à Samsung. Il y en a énormément. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est presque un... Enfin, on avait connu Amazon qui avait fait un, ce qu'on appelle un fork d'Android. Donc, Android est un logiciel libre, comme vous le savez. Et on peut, n'importe quelle société peut se l'approprier et en faire une autre version. Et c'est ce qu'avait fait Amazon. Et qui donc, cette version n'a plus aucun rapport avec la version de Google. Là, on n'y est pas tout à fait... Mais oui. Pardon Guillaume, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que déjà à l'époque, je me souviens très bien de la keynote du Samsung Galaxy S3. Mm-hmm. Je me souviens que tu avais déjà fait cette remarque-là en disant que durant la totalité de la keynote, ils avaient fait un jeu, une sorte de, ils avaient jonglé une sorte de jeu de passe-passe pour parvenir à ne jamais citer Android de mm-hmm. toute la keynote.
Oui, tout à fait. Et là, on a l'impression de rentrer dans une deuxième phase de cette stratégie, c'est-à-dire que après avoir créé des outils pour eux-mêmes à mettre sur le socle Android, là ils livrent les clés de ce qui devient effectivement un écosystème, puisque évidemment Samsung devient presque est déjà un acteur majeur de l'industrie pour ce qui concerne Android. Donc on pourrait presque imaginer que à terme, là on a l'étape développeur, mais à terme on pourrait presque se dire, eh ben Samsung a sa version d'Android qui s'appelle, est-ce que je sais moi, SOS, et il gère les choses de manière indépendante en dehors de l'influence de Google.
Bon, Patrick. Ça fait plus d'un an aujourd'hui, deux ans presque, qu'on commence à s'apercevoir de ça. Il y a 18 mois, j'étais allé lors du Mobile World Congress ou du CES, je ne me rappelle plus, à une conférence Samsung pour les développeurs, qui était à l'époque encore organisée lors des salons. Aujourd'hui, ils ont organisé leur première conférence en dehors des salons, c'était en octobre dernier, je crois. Mm-hmm. Ils ont tout intérêt à le faire. Aujourd'hui, ils sont leaders sur le marché, que ce soit les smartphones ou téléphones classiques.
Mmh. Ils ont vendu plus de téléphones que Nokia, Apple et LG ensemble. Donc ils sont leaders, c'est rien de le dire. Oui.
Ils sont toujours dépendants d'Android, même si on peut dire d'autres choses. Mais aujourd'hui, ils ont été quand même un peu plus vite que Google sur certaines choses. C'est eux qui ont imposé, par exemple, le format phablette. Mmh. C'est eux qui ont été les premiers à tester ce format. On n'y croyait pas trop. Même eux, quand on les interrogeait, ils disaient bon, on sait pas, on teste. Ils ont été agréablement surpris par les ventes. Finalement, ça a surpris et ça a créé une catégorie de produits que même Apple n'avait pas eu le temps d'intégrer. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas encore de phablette Apple. Ça se trouve, on en aura bientôt une. J'en sais rien.
Je ne sais pas si ça arrivera. J'ai pas l'impression.
Ça arrivera peut-être le jour où ils s'apercevront que c'est un volume et que simplement lançant un produit avec cette taille-là, ils arriveraient peut-être à atteindre. Tout intérêt à aujourd'hui développer un écosystème sur la phablette. Tout ce qu'ils ont mis en place fait que même deux ans après le lancement de la première Galaxy Note, ils sont toujours, c'est toujours ceux qui ont créé la vraie phablette avec des vrais outils dédiés à cet usage-là, avec un stylet, avec des outils qu'on appelle S Pen. Et ils sont en train de faire la même chose sur le Galaxy S4 avec des outils dédiés à la télévision. Sur la télévision, je suis en train de regarder les leaders de la télévision et il y en a quelques-uns qui ont testé Google TV. Peu ont réussi à transformer vraiment l'essai. On a LG qui a réussi à faire un mix entre son système et Google TV. Samsung a testé et finalement s'est dit on a plus intérêt à développer notre écosystème. Et là, ils sont en train de tout relier. Et ils s'aperçoivent que pour tout relier, faut qu'ils créent leur écosystème et qu'ils développent des outils pour interconnecter tout ça. Et l'autre chose qui est hyper importante, c'est qu'ils sont en train de préparer le lancement de Tizen, qui va avoir lieu en début d'année prochaine. Tizen, c'est un petit peu leur force spéciale, parce que c'est le système qu'ils ont mixé entre Migo, donc avec Intel derrière, mais aussi Bada, qui était leur ancien système qui a pas mal fonctionné en France en particulier.
Donc c'est un nouvel OS encore, comme Android ou iOS ou Windows.
C'est un nouvel OS qui va équiper les téléphones milieu de gamme de Samsung.
C'est ça.
Et d'après ce que j'ai entendu dire, ils sont en train de dépenser le PIB d'un pays africain pour construire l'écosystème autour de cet OS. Ouais. Ils sont en train de donner des sommes d'argent à des éditeurs pour qu'ils puissent porter leur application sur sur Tizen, qui fait que lorsqu'ils arriveront l'année prochaine, ils auront déjà quelques milliers d'applications, dont les plus connues.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, enfin, pour en revenir à cette question par rapport à Android, est-ce qu'ils sont effectivement en train de passer une étape dans l'émancipation par rapport à Google? Est-ce que c'est un hold-up d'Android un petit peu plus doux que celui qu'a fait Amazon? Ou est-ce que c'est simplement voilà ce qu'ils doivent faire pour continuer à se développer, mais ils restent tout à fait bienveillants vis-à-vis d'Android?
Android, c'est un écosystème. Pour moi, Amazon contribue à cet écosystème comme a pu aussi le contribuer BlackBerry 10, même si on l'a pu entendre l'inverse. BlackBerry 10 a contribué à l'écosystème Android parce que il était facile de porter son application Android sur BlackBerry 10 et même eux le préconisaient.
Oui, c'était pour avoir plus d'applications. Pour eux, c'était avantageux. Mais bon, d'accord. Donc pour toi, Elric, c'est tout le monde est des bisounours. Donc Android, c'est
pas
super
des
sympa.
Samsung,
et tout le monde
il faut s'en méfier. Moi, si j'étais d'accord. Google, je m'en méfierais. Mais aujourd'hui, je représente un écosystème qui s'appelle Android.
Bien sûr.
Le but de cet écosystème, c'est d'être ancré dans toutes les technologies possibles.
Mais c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, Elric. C'est-à-dire que tu vois Android en tant qu'écosystème séparé de Google presque. Pour toi, c'est d'après ce que je comprends, c'est vraiment deux entités différentes.
Parce que tu, comme tu me disais, Amazon, Samsung, mais c'est pas les seuls.
Tout à fait.
Sur les objets connectés, jamais les personnes diront que y a beaucoup de produits, on dira pas que c'est Android qui tourne derrière. On le sait parce que les gens bidouillent un petit peu et arrivent à voir que c'est Android.
Oui.
Mais contrairement à ce que vous pensez, ça participe à l'écosystème Android.
Oui, pour toi, c'est plus large. Moi, je pense que les ingénieurs de chez Google ont fait un peu la gueule quand ils ont vu ces annonces. Mais Guillaume, on te laisse pas parler et tu es trop poli. Donc,
non, mais moi, je voulais dire juste un petit truc. Je pense peut-être que je regarde un petit peu trop la chose par le petit bout de la lorgnette.
Les gens qui disent ça, ils continue juste après en disant un truc super intelligent qui donne l'impression que les précédents sont complètement idiots. Mais
vas-y. Je me mets la pression, mais
j'ai peur.
Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai un S2, j'ai testé le S3, j'ai testé les notes, etc. J'ai une tablette également, Samsung Galaxy Tab. Moi, j'ai jamais apprécié ce que pouvait faire Samsung en termes de software. Ça ne m'a jamais plu. J'ai toujours trouvé ça mauvais, pas pratique, et désagréable, alors que sur le plan du hardware, j'ai toujours trouvé que c'était très bon. Moi, j'adore ce que fait Samsung, même en termes de télé.
Tu peux confirmer qu'il y a une vraie expérience Galaxy pour le coup qui est différenciante et qui est remarquable.
Oui. Alors, pour moi, jusqu'au S3, la surcouche Samsung n'importe strictement rien, voire même a tendance à handicaper un peu l'expérience. Maintenant, je me dis que si justement ils font cette ouverture-là, j'ai la sensation que ça va amener à du software de meilleure qualité. Ils vont enfin s'entourer de développeurs qui vont avoir vraiment toutes les cartes en main pour parvenir à faire des logiciels, des applications de bonne qualité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, pour le S4, je n'en suis pas sûr, mais jusqu'au S3, j'ai constaté que c'était plutôt médiocre, alors que le hardware est plutôt bon.
Mais alors, bon, là, on est tous enthousiastes. Si on veut prendre les choses un petit peu du mauvais côté, est-ce qu'on peut imaginer, pas tout de suite, mais à terme, qu'il y ait des développeurs qui, enfin, dans l'écosystème Samsung, des applications qui soient développées pour des appareils Samsung qui ne soient plus compatibles avec les autres appareils sous Android? Bien sûr, si ces applications utilisent des fonctionnalités spécifiques comme le S Pen ou le S Beam ou ces fonctionnalités spécifiques à Samsung, on le comprendrait. Mais si les choses continuent dans la différenciation de Samsung, est-ce qu'on peut imaginer que ça arriverait? Ou est-ce que là, je suis un petit peu dans la théorie du complot?
Non, ce qui va se passer pour moi... Tu vas peut-être me dire que je fais pareil un petit peu de... Non, ce qui va se passer pour moi, c'est que Samsung a atteint un palier qui est déjà assez énorme ça va un petit peu se stabiliser, voire un petit peu diminuer. On a des acteurs dans le marché qui vont commencer à vraiment grossir. Je pense à LG, par exemple. Je pense aussi à Xiaomi en Chine qui est en train de faire la même stratégie que Samsung, c'est-à-dire créer un écosystème avec la ROM Miu. Certains l'ont essayé sur leur téléphone. Ils sont en train de recruter des développeurs un peu partout. C'est pas les seuls. Il y a Lenovo aussi. Il y a Huawei, il y a ZTE. Et ça, c'est des contre-forces qui arrivent sur le marché et qui vont permettre un rééquilibrage des puissances, j'ai envie de dire, dans ce marché. Samsung, aujourd'hui, je ne vois pas leur part de marché. Elle va commencer à stagner et je pense qu'elle va diminuer sur les 2-3 prochaines années.
Moi, ça me paraît...
Pardon, Patrick. Samsung était à l'origine de Bada quand même il y a une dizaine d'années. Et c'était plutôt un essai loupé.
Oui. Donc, là, ils vont retenter avec Tizen, mais ça ne leur coûte pas finalement très cher par rapport à ce qu'ils gagnent.
Ouais.
Ils vont dépenser quelques centaines de millions d'euros dedans. Et...
Bon, écoutez, on verra ce qui se passe. Moi, ton interprétation, Ulrich, me paraît un petit peu optimiste quand même. Avec pour le moment, je ne vois pas Samsung choir de son trône, mais on ne sait jamais. Hein, c'est ce qui est intéressant dans cette industrie, c'est que tout peut arriver.
Il y a du monde, hein, je veux dire, Asus, LG,
c'est sûr.
Même HTC, malgré le fait qu'il soit mauvais.
HTC et LG, ils sont quand même pas en super bonne forme non plus en ce moment.
Ah, mais contrairement à HTC, LG est en train de monter en puissance. Ouais. Je sais pas si vous avez vu le LG G2, je sais pas
oui,
si
oui,
vous avez
très
vu
bien,
la dernière
mais le
GPA
HTC, le HTC et, One était très bien aussi.
Et les parts de marché aussi qui augmentent. Derrière, contrairement à HTC, c'est une puissance industrielle. Hein. Ils sont capables de pouvoir produire des téléphones. Alors que HTC, dès lors qu'il y avait des demandes qui étaient trop importantes, derrière, il y avait des pénuries partout.
Bon. On verra les ventes à la fin de l'année risquent de nous redessiner un petit peu le marché. Moi, j'avoue que je vois toujours Samsung en très bonne position à la fin.
Ah non, pour la fin d'année, je suis d'accord. Ouais. Moi, je parle plus de 2014, voire 2015.
Okay.
Je pense que Samsung va commencer un petit peu, je dis pas décliner, mais en tout cas, se stabiliser.
Bon, bah écoute, on prend note, on en reparlera dans un an ou deux alors. Moi, je pense plutôt que dans un an ou deux, il y aura... un nouveau marché, effectivement, d'une certaine manière, on ne sait pas comment exactement, mais le wearable computing, comment dire,
oui, l'internet des objets,
et c'est ce que, enfin, des objets qu'on porte, et c'est ce que tu disais, hein, Ulrich, c'est pas, on n'invente pas le fil à couper le beurre, là, c'est ce que
non,
dit tout
le
monde,
marché, hein.
C'est effectivement le prochain marché, et c'est peut-être par là que pourront arriver des nouveaux acteurs, encore que. Je vois pas trop qui là non plus, mais bon, c'est une question pour.
Il y a des choses à faire. Hein. Ouais. C'est le moment de réfléchir, j'ai envie de dire.
Bon, et alors justement à propos de choses à faire, Motorola a annoncé il y a une semaine environ le projet ARA, ARA, qui a rappelé à pas mal de gens le projet qui était Kickstarter, si je ne m'abuse, ou un simili Kickstarter, qui s'appelait Phone Blocks, dont j'ai parlé il y a quelques semaines de ça. En étant, comment dire, assez négatif sur le projet, j'avais expliqué que j'y croyais pas du tout. Et quand Motorola a présenté son ARA, qui est similaire à PhoneBlocks, et d'ailleurs ils ont travaillé avec les gens de PhoneBlocks, donc c'est similaire par bien des aspects, beaucoup de gens se sont dit « Ah mais voilà Patrick, tu vois, en fait c'est possible. Tu disais que c'était pas possible et regarde, Motorola le fait. » Alors. J'ai promis à tout le monde que j'en parlerai dans l'émission et effectivement à première vue on pourrait se dire bah voilà Patrick tu disais que c'était pas possible là visiblement Motorola est dans la danse donc il semblerait que tu aies tort et peut-être que j'aurais tort c'est tout à fait possible hein, je prétends pas avoir la science infuse mais par contre je pense qu'il faut quand même s'attarder un petit peu sur d'une part ce que promettait PhoneBlocks et d'autre part ce que permettra ARA et il faut bien comprendre que il y a un pas entre le projet et la réalité. D'une part, la chose très très importante qu'il faut noter pour PhoneBlocks et ce qui constitue finalement le fantasme de ce genre de système. Je vais peut-être expliquer de quoi il s'agit. Hein. Je me laisse emporter par mon enthousiasme, mais j'explique pas. PhoneBlocks et ARA sont des systèmes de téléphone modulaires, c'est-à-dire que on a différents éléments à partir desquels on peut constituer un téléphone complet. On aurait le module écran, le module batterie, le module processeur, le module appareil photo, etc., etc. On prend ce dont on a besoin, des puissances dont on a besoin, on assemble tout ça et ensuite on peut les changer à volonté. Le truc qui est extrêmement important à noter avec PhoneBlocks, c'est que le fantasme de cette chose était de se dire on ne va plus jamais changer de téléphone, on se contentera de changer des parties de son téléphone pour le faire évoluer. Et moi, ce que je disais, c'est que cet aspect du projet est irréaliste, à mon sens, parce que les connexions, ne serait-ce que ça, la partie connexion, la partie bus, la partie socket, etc., etc., entre les différents composants d'un appareil de ce type-là, évoluent aussi. Donc, il est très, très compliqué de constituer un téléphone modulaire qui va durer. Alors, évidemment, il est possible de constituer un téléphone modulaire. Un téléphone, c'est jamais qu'un PC avec des pièces qui sont petites. Et il existe des PC. Enfin, le principe même du PC est d'être modulaire. Donc, bien sûr, il est tout à fait possible de concevoir un téléphone modulaire, d'avoir des différentes pièces qui vont s'assembler. Si Motorola entre dans la danse, je ne doute pas que ce type de conception soit encore plus affinée et encore plus élégante et qu'on pourra effectivement avoir des appareils qui seront pas des simples Lego, mais peut-être des choses qui ressembleront à quelque chose d'élégant. Donc c'est tout ça, c'est tout à fait possible. Ce qui pour moi n'est pas possible, c'est l'évolution sur la durée, parce qu'au bout d'un moment, il faudra changer tel élément qui nécessitera le changement de tel autre élément qui lui-même nécessitera le changement d'un troisième, et au final on a plus vite fait de changer tout l'appareil. Et ça, c'est une chose, la question évolutivité et l'aspect vert, l'aspect écologique de ces projets. Il faut pas se leurrer. De ce point de vue, moi je n'y crois toujours pas. Encore une fois, on me prouvera peut-être que j'ai tort d'ici quelques temps. L'autre aspect qui est extrêmement important aussi, c'est de voir d'une part des questions de taille et d'autre part des questions de puissance et de prix et de rendement. Parce que quand on construit un appareil tout intégré, on gagne de la taille, de la vie de batterie, parce que ça consomme moins, il y a moins de pertes d'énergie, de diffusion d'énergie, et du prix. De fabrication, parce qu'on fabrique systématiquement le même. Donc la question intéressante à poser, c'est est-ce que on pourra, avec toutes ces contraintes, constituer des téléphones modulables qui soient intéressants au niveau tarif et au niveau autonomie et au niveau puissance. Je suis un petit peu sceptique aussi. Donc même sur cet aspect, je suis pas convaincu que ça pourra donner quelque chose, même avec la puissance de Motorola. Encore une fois, ça veut pas dire que le projet ne peut pas exister. Évidemment, le projet peut exister, et même il est possible qu'il existe. Hein. Enfin, Motorola a l'air très sérieux sur le sujet, et c'est très bien. Ça permettra à certaines personnes, à mon sens, un public qui sera plutôt des passionnés, de jouer avec des téléphones mobiles de la même manière qu'on joue avec des composants de PC pour se fabriquer son propre PC. Et c'est vraiment un projet enthousiasmant, hein. Le PhoneBlocks, je pensais pas qu'il réussirait à le mettre en place parce que c'était trop ambitieux. Motorola, évidemment, il pourrait en avoir les moyens, et ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment enthousiasmant. Moi, je serais très heureux de le voir naître, ce projet. Mais encore une fois, et je conclue, et je sais que j'ai fait long, donc je vous donne la parole, mais encore une fois, ce sont sur ces aspects spécifiques qu'il faut rester lucide. L'aspect écologique, donc mise à jour infinie en ne changeant que des morceaux de l'appareil. Et puis ensuite, l'efficacité, les rendements et les prix de l'appareil final qui seront, à mon avis, discutables. Ça, on verra. Messieurs, est-ce que ça vous inspire quelque chose, ce long monologue ?
Non, et je pense que tu as dit des choses qui sont vraies. Il y a quelque chose qu'il faut préciser. Les sites de financement par la foule, comme Kickstarter ou Indiegogo.
Financement participatif.
Ouais, moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire financement par la foule en faisant une traduction littérale. Ouais. Mais ce genre de site, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est vu comme un process qui est quasiment indispensable dans des projets technologiques pour pouvoir faire des levées de fonds correctes. Mais avant, c'était des projets qui avaient pour objectif de pouvoir lever des fonds sur des projets qui seraient jamais financés traditionnellement. Et ce genre de projet, pour moi, PhoneBlocks, c'était typiquement ça. C'est des choses qui auraient jamais pu voir le jour à l'heure actuelle avec les fonds de financement classiques. Et donc ce genre de site a permis de financer ce type de projet, en tout cas a permis de faire de la visibilité à ce type de projet.
Tout à fait, oui.
Au-delà de ça, je sais pas si ce que vous pensez derrière Motorola, ce que Motorola a présenté, pour moi, c'est pas vraiment Motorola, c'est Google qui est derrière. Et on retrouve un petit peu ce que fait Google dans les laboratoires qui s'appellent Google X, c'est-à-dire des choses qui peuvent nous voilà, on a l'impression que c'est plus de la fiction qu'autre chose aujourd'hui. Mais en tout cas, on se rappellera que ça, c'est les premiers qui ont commencé à le faire. T'as raison sur beaucoup de choses. La technologie aujourd'hui évolue trop vite dans les télécoms pour pouvoir instaurer des choses dans le temps. Les standards évoluent trop vite. On pouvait voir que ce soit la génération de télécoms avec la 3G et la 4G, mais aussi les standards, l'USB. Et là, je reste sur des choses très grand public. On peut entrer plus dans les détails. C'est des choses qui évoluent trop vite pour pouvoir instaurer ce type de modèle. Aujourd'hui, je pense que ce genre de téléphone, ça donnerait quoi? Un an de vie en plus au téléphone. On les utiliserait, allez, je dis n'importe quoi, 3 ans au lieu de 2. Encore, je connais peu de gens qui utilisent 2 ans au téléphone maintenant.
Ce qui est déjà pas mal en soi, hein. Pourquoi pas?
Mais... Ouais. C'est déjà pas mal, hein. Mais je vois pas au-delà de ça, et je sais pas si on aurait un bilan carbone positif.
Ouais.
Je sais pas si c'est, on peut parler de bilan carbone, parce que c'est quand même, je veux dire, ils font pas mal d'économies en soudant des cartes mères. S'il faut penser à rajouter des composants pour pouvoir avoir des choses évolutives, ça nécessite aussi de l'énergie. Et je ne sais pas si c'est très intelligent à voir. En tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est trop tôt pour mettre ça en place. Mais ce que je me dis, c'est que les premiers à réfléchir dès maintenant et à acquérir des brevets, des prototypes, ce sera ceux qui seront dans 5 à 10 ans prêts à lancer les premiers produits.
Mmh. Oui, écoute, je suis content déjà. Tu n'as pas dit que j'avais raconté n'importe quoi. Donc, c'est pas mal. Guillaume, est-ce que tu seras celui qui va venir me houspillé comme un...
Non, mais bon, moi, je suis plutôt un rêveur, donc j'ai envie d'y croire, tout simplement. Ensuite, sur tout ce que tu as dit, je suis d'accord avec l'aspect écologique. Mais sur tout le reste, j'ai du mal à comprendre. En fait, je fais partie des gens qui montent leur PC pièce par pièce, qui achètent même...
Il n'y en a plus beaucoup.
La boîte...
Ouais, on est trois sur Paris.
Je
Ils sont
vraiment...
tous sur hardware.fr ou PC Expert.
Oui, bah voilà.
Exactement.
Mais moi, mon ordinateur, en fait, je suis constamment en train de changer une pièce et une seule. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a un saut de technologie qui oblige, le jour en fait où on est obligé de changer la carte mère, on est effectivement plus ou moins obligé de changer tout ce qui va avec. Encore que avec un peu d'astuce, on peut quand même parvenir à changer certains trucs et puis à se dire tant pis, ça sera pour le coup d'après. En fait, ce qui me paraît intéressant avant tout avec ce type de concept, c'est de se dire que par rapport au prix, moi j'ai au contraire l'impression que ça coûtera moins cher parce que on va en permanence, on va configurer notre téléphone en fonction du budget qu'on a à disposition. C'est-à-dire que si on veut un bas de gamme, on va acheter des éléments bas de gamme. Si on veut un haut de gamme, a priori, c'est pas vers ce type de téléphone qu'il faut aller. Même si, effectivement, on pourrait probablement trouver des éléments haut de gamme à assembler. Ce que je veux dire par là, c'est que sur le plan modulaire, j'ai la sensation, enfin, je ne vois pas techniquement qu'est-ce qui fait que ça peut marcher avec un ordinateur, mais que ça ne peut pas marcher avec un téléphone portable?
Ah, mais ça peut, bien sûr. Le truc, mais c'est Pardon, fini Guillaume.
A priori, je suis d'accord également sur l'idée que la technologie avance trop vite. Qu'il y a, en termes de communication par rapport au téléphone, on a encore des gaps qui sont très importants à chaque nouvelle génération de téléphone. Mais
alors
je
là,
dis,
c'est
5 à 10 ans.
Ouais, c'est quand même très important parce que c'était la promesse de PhoneBlocks. C'était l'idée. Il y avait vraiment un aspect écologique qui était on ne changera plus jamais le téléphone, on va plus jamais les jeter, on va juste changer des bouts et ça évoluera à l'infini. Mais par rapport à ce que tu dis, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des téléphones modulaires comme on fait les PC modulaires? On peut tout à fait, bien sûr, c'est ce que je disais, c'est tout à fait possible. Le truc, c'est que il sera toujours plus simple et moins cher d'acheter un téléphone. Si tu veux un téléphone bas de gamme, il est plus simple de l'acheter tout fait que d'aller t'acheter les différentes pièces et de le monter toi-même. Et à mon sens, moins cher parce que si tu en montes 10 millions sur une chaîne de montage, au final, ça va te revenir moins cher que. Alors oui, tu peux avoir les pièces qui sont produites à grande échelle aussi. Mais
je suis d'accord.
Après,
avec
il y a aussi la structure même du marché qui rend compliqué ce type de choses parce que vous avez remarqué que l'achat d'écran LCD, de batterie, de processeur, c'est du B2B aujourd'hui.
Bien sûr.
Je pense pas que Qualcomm sait vendre, encore non, c'est le mauvais exemple parce que peut-être qu'il saurait vendre des processeurs. Mais je pense pas que Sharp ou où Samsung puisse du jour au lendemain commencer à vendre des écrans qu'on puisse.
Bien sûr. Ouais. Et du coup, voilà, tu passes par des OEM qui vont fabriquer les trucs, mais qui vont les distribuer différemment. Enfin, il y a tout. Ce marché existe sur PC.
Et moins cher. Je pense que ça coûtera plus cher.
Exactement. C'est pour ça. Regardez, le marché. Si on prend le PC comme exemple, aujourd'hui, 99% des PC sont vendus déjà conçus, et on a une immense part de devices tout intégrés que sont les portables, qui sont de plus en plus fins et de plus en plus compacts, qui se vendent de mieux en mieux. Pourquoi ? Parce que ça a des avantages différents à tous les niveaux de la chaîne. Ça a des avantages. Donc bon.
Je vais faire juste une analogie, oui. Une analogie avec les consoles de jeux portables. Aujourd'hui, alors effectivement c'est une niche, hein. On est peut-être deux à Paris à le faire, mais sur les consoles de jeux portables, on peut tout à fait les démonter, enlever certains éléments, acquérir des éléments de meilleure qualité sur eBay. En provenance de Hong Kong, par exemple, en cherchant un petit peu, on peut, voilà. Et par exemple, on peut récupérer une vieille PSP d'il y a 5-6 ans et y ajouter un écran de meilleure qualité que celui qui était d'origine.
Mais alors, Guillaume, et encore une
la
fois.
La démarche coûte pas très cher.
Oui, je comprends bien, mais moi, je suis pas en train de dire que c'est pas possible. Il faut pas se méprendre, hein. Je pense que j'ai été assez clair dans ma longue diatribe du début. C'est tout à fait possible. Et comme je le disais, je serais très heureux que ça arrive. C'est hyper enthousiasmant pour les
bidouilleurs. Je voulais insister sur le fait que c'était pas très cher. Je voulais insister sur le fait que ça restait abordable apparemment quand même ce genre de démarche.
On verra ce que ça donne. Il y a d'un côté les rêveurs effectivement qui aimeraient le voir arriver, et d'une certaine manière j'en fais partie aussi. J'espère que ça sera possible. Et puis d'un autre côté, bon, moi personnellement j'y crois pas trop dans ces conditions qu'ils ont exposées. On verra comment ça se passe si et ça voit le jour.
Peut-être qu'on peut arriver à quelque chose comme le marché de l'automobile où on fait évoluer quelques composants.
C'est possible. Pourquoi pas.
Mais le marché pour moi est pas assez mature.
On verra. Peut-être qu'un jour effectivement l'informatique arrêtera d'évoluer d'une certaine manière sur les PC.
Je sais pas si les gens veulent bidouiller parce que c'est marrant parce que l'informatique aujourd'hui c'est il y a très peu de gens qui savent vraiment faire de l'informatique. J'entends souvent les vieux dire ah les jeunes ils manient bien les outils informatiques. Mais non les jeunes ils savent aller sur Facebook et c'est tout.
Je vais en reparler tout à l'heure, mais on a enregistré une émission spéciale qui sera la prochaine émission qui sera diffusée, le prochain rendez-vous tech quand je serai au Japon. On a enregistré une émission pour que vous ayez quand même votre épisode, et on a c'est une émission spéciale éducation. Et il y a des choses assez intéressantes sur le sujet qui sont dites.
Pas fait exprès, mais bon. Non, mais ça fait un peu de teasing. Ouais. Non, mais voilà, pour moi, les gens, l'informatique, il y a très très peu de gens qui savent.
Non mais c'est sûr, mais d'ailleurs même les gens qui montent leur propre PC, hein, je suis sûr que dans l'assistance chez les auditeurs, il y en a pas mal, et il y en a beaucoup aussi qui le faisaient à une certaine époque qui aujourd'hui veulent plus s'embêter avec ça. Moi j'ai monté. Ça, ouais. Oui, mais voilà, toi Ulrich, c'est ton cas, Guillaume visiblement le fait encore.
Mais si je synthétise juste ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, si je rêve de quelque chose, c'est d'une normalisation des éléments d'un hardware. J'aimerais que d'un tout, on puisse arriver à segmenter chaque élément et avoir du choix pour chaque élément. Et se dire simplement, mais ne serait-ce que sur le point de départ, se dire simplement qu'on peut, par exemple, avec un téléphone portable, acheter n'importe quelle batterie de meilleure qualité. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué.
Bien sûr.
Ou alors, il faut se contenter d'acheter chez toujours le même fabricant parce que c'est plus sûr.
Bon, écoute,
il va se passer quelque chose dans ce sens. Dernier point, après, il va vraiment se passer quelque chose dans ce sens. Et je pense qu'on va arriver dans l'hyper personnalisation. C'est un peu ce qu'essaye de faire Google avec Motorola.
Alors ça, j'y crois pas beaucoup non plus.
C'est-à-dire pouvoir faire de l'assemblage dans les régions où on va vendre le téléphone, ce qui va permettre d'avoir un champ d'action beaucoup plus grand, que ça soit sur la personnalisation de la batterie, de la couleur du téléphone. Ça sera fait toujours par le constructeur, je pense, mais en tout cas le consommateur aura plus de choix et pourra plus personnaliser son téléphone, et ça va un peu dans ce sens-là.
On va dire que je suis cynique, mais j'y crois pas tellement non plus. C'est gadget, mais je pense pas que ça va se développer plus que
moi,
ça.
Moi, je trouve ça intéressant.
Mais je pense pas que ça va se développer.
Et le Moto X, j'ai pas eu les chiffres de vente, mais j'ai l'impression qu'il a eu un très bon accueil aux États-Unis.
Ouais.
Si tu veux, c'est un peu comme il y a 15 ans, il y a 20 ans, Renault sortait une Clio puis une Twingo en disant on va pouvoir vous la sortir dans la couleur que vous voulez. Si tu veux, à l'époque, on pensait également que c'était complètement impossible parce que les flux de vente et de production étaient faits de telle sorte qu'on pensait que c'était vraiment trop compliqué et qu'on rentrait trop dans la personnalisation à outrance. Puis au final, ça a été rendu possible.
Bon, écoutez,
j'ai vu des fabricants africains qui vendent des télévisions et des smartphones, et c'est pas vraiment des fabricants, en fait, c'est des assembleurs. Ils achètent les composants en Chine, ils les font importer dans leur pays, et ensuite ils vont personnaliser soit des téléphones pour le marché européen ou pour le marché africain ou américain. Ils vont pouvoir créer des micro-usines, ce qu'on appelle comme ça, en formant les gens sur des tâches particulières. Donc ils vont pouvoir créer des assemblages avec des accessoires quand on va acheter un téléphone, changer la coque, etc.
Mais oui, mais vous êtes gentils, les enfants, mais vous pensez pas aux économies d'échelle. Il y a des éléments extrêmement. Bon, bref, écoutez.
Mais on verra. Mais bon, après, c'est ce qui compose l'offre.
Oui. Bon, on verra. Hein, on en rediscutera dans un an ou deux, et on verra si j'ai eu complètement tort et que tous les téléphones du monde sont basés sur la technologie ARA dans 2 ans, ok.
Non, je ne pense pas.
Peut-être pas jusque là, mais en tout cas, on verra si ARA a été un succès. C'est possible. Hein, peut-être que je me serais trompé. Moi, encore une fois, j'y crois pas trop. Les rêveurs qui sont à côté de moi, y croient un petit peu plus. Je crois que le terme essentiel dans cette phrase, c'est les rêveurs. Mais on verra, peut-être que les rêves deviendront réalité. Vous voyez cette magnifique...
Ou les visionnaires, je ne sais pas.
Peut-être, voilà. les rêveurs sont-ils des visionnaires? Certains d'entre eux, peut-être.
Et il manque des visionnaires aujourd'hui.
Peut-être, oui, c'est vrai aussi. Bon, les visionnaires, justement, ils utilisent quoi? Ils utilisent Google Glass, parce qu'ils ont la vision, tu vois, de Glass, machin, non?
Pas mal.
Eh bien, Google Glass 2 arrive. C'est une nouvelle version. Hein. On sait que les Google Glass seront commercialisés pour le grand public en 2014. Hein, donc, on s'en approche. Une petite note pour dire que, là encore, moi, je suis horriblement terre à terre. C'est pour ça que je l'ai mis dans la même catégorie. Les Google Glass 2 se départissent de leurs écouteurs par induction dans l'os. Je ne sais pas si ça s'appelle induction, mais c'est les sons qui sont transmis par vibration des os, et on a donc un petit écouteur mono qu'on glisse dans son oreille qui est attaché à la lunette. Et enfin, je sais pas, mais pour moi là encore, c'est horriblement laid, quoi. C'est enfin, on se plaint souvent que les gens qui ont des Google Glass sur le nez ont l'air un petit peu trop enfin, je sais pas, c'est un petit peu ridicule. On a l'impression de voir quelqu'un sur un comment ça s'appelait, ces appareils pour se déplacer dans la ville là. Mais bon. Et avec l'écouteur Moro.
Est-ce que les gens qui avaient les premiers Motorola, les premiers téléphones portables Motorola, étaient pas ridicules?
Quand t'avais la valise, oui, t'étais un peu ridicule. D'ailleurs, vous vous souvenez du allô, vendez tout. Bah oui, le mec qui faisait le kéké avec son téléphone au début, c'était un petit peu idiot. Et le type qui a sa valise, oui. Mais le truc, c'est que le Segway, voilà, j'oubliais le nom du Segway. Le Segway est resté ridicule. Les téléphones portables, peut-être parce qu'ils sont rapetissés, sont moins ridicules, et peut-être parce qu'on a l'habitude, hein, c'est juste une question d'habitude. Et peut-être qu'avec les Google Glass, c'est juste une question d'habitude. Moi, j'ai pas vraiment l'impression, mais peut-être, on verra. Mais ce qui est clair, c'est que le Segway est resté ridicule. Alors que c'est un excellent appareil, hein, ça a énormément d'avantages.
Non, mais bon. Je pense que la technologie va évoluer. Moi, j'ai testé des verres. J'ai mon associé qui a travaillé chez Orange Labs, et avant de me rejoindre à plein temps sur l'aventure, et qui a testé des appareils au Japon pour Orange, en faisant de la veille. Son objectif était d'apporter la technologie japonaise en France. Et il a testé des verres qui permettent de recréer une image à travers des verres de lunettes, et on a l'impression de voir une image à 1 mètre devant soi, sauf qu'on est les seuls à la voir. Et je pense que...
C'est équivalent du projet des anciens de Valve, qui sont en train de faire Kickstarter aussi, je me souviens plus. C'est VR,
ça
quelque
marche.
Chose
J'ai testé cette technologie, d'accord. Ça marche, c'est bluffant, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un écran à 1 mètre de soi, on est les seuls à le voir, c'est-à-dire qu'on peut par exemple être dans le métro et commencer à regarder une série. Ou par exemple naviguer sur un site internet et commander ça via une zone tactile au niveau de la main, et ça fonctionne aujourd'hui. Et je pense que lorsque on va passer par la miniaturisation, les gens s'apercevront même pas que c'est des lunettes différentes de celles qu'on a aujourd'hui dans le métro.
Ça a l'air, oui, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Le nom du projet en question, c'est Cast AR, Cast AR, C-A-S-T-A-R. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Bon, peut-être les Google Glass, on en parle souvent. Hein, c'est, il est clair que c'est quelque chose qui est technologiquement intéressant. Et puis,
c'est pas un produit final. Hein.
C'est ça. Il est un petit peu facile de le critiquer. C'est encore un prototype. On verra ce que ça donnera dans quelques mois. Et puis encore à l'avenir, ça va encore évoluer plus loin que ça. Là, on n'est qu'aux prémices de ce genre de technologie.
Et un prototype, c'est comme les produits développés sur Kickstarter. C'est pas des produits qui sont conçus pour le grand public.
Tout à
c'est
fait,
des produits qui sont conçus pour des early adopters et des bêta testeurs.
Tu fais bien de le préciser. Guillaume.
Et ce que je trouve intéressant parallèlement, c'est tous les précédents que ça crée sur le plan juridique. C'est-à-dire qu'on est en train de se poser des questions, mais de pratiquement de métaphysique hallucinante par rapport au fait de la sortie de enfin de la du concept de Google Glass. On a vu qu'il y avait des en Californie il y avait des boutiques qui refusaient, ou c'était un bar qui refusait que quelqu'un puisse rentrer avec ses Google Glass. J'ai vu récemment, toujours en Californie, que c'était une conductrice au volant de sa voiture qui s'est pris une amende assez salée parce que simplement le policier s'était rendu compte qu'elle avait des qu'elle conduisait
fait, ouais.
avec des Google Glass. Mmh. Alors que a priori le problème n'en est pas un. Tout dépend de l'utilisation qu'elle en fait. Mmh. Donc en fait, pour l'instant, il y a une espèce de crainte a priori de l'objet en se disant quelqu'un qui en a en fait forcément une utilisation néfaste.
Bon, je pense pas que ça soit une crainte a priori parce que là, tu entends parler des quelques cas où il y a eu une réaction adverse, mais il y a énormément de cas où il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu de réaction adverse. Donc, effectivement, on entend parler des moments où ça va pas, mais proportionnellement, il y a énormément de moments où ça pose pas de problème. Maintenant, il est certain que c'est un nouveau type de technologie et que même légalement, il faut définir les cadres dans lesquels ils vont être utilisés. Et ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre avec le temps, avec l'expérience et avec les processus juridiques divers. C'est le cas pour les voitures sans conducteur, par exemple, qu'a développé Google. Il y a des cadres juridiques qui doivent être respectés. C'est le cas avec les Google Glass. Il y a des questions de vie privée. Hein. C'est des sujets qu'on aborde souvent en ce moment. Mais il y a des questions de vie privée avec les Google Glass. Parce qu'avec un téléphone, quand quelqu'un prend une photo, on le voit physiquement qui fait l'action. Avec les Google Glass, on ne voit pas. Donc, il cligne de l'œil, ça prend une photo. Donc, il y a effectivement toutes ces questions qui doivent être jugées par l'expérience.
Usages, hein.
Quoi.
C'est ça. Des nouveaux usages. C'est ça. Effectivement, il manque le cadre juridique, mais c'est comme tout. Je pense que il y a eu la même chose sur les téléphones, sur les voitures, etc.
Oui, tout à fait.
Mais je deviens peut-être un petit peu paranoïaque par rapport à l'approche que la France a des nouvelles technologies. Parce qu'autant je me dis qu'en Californie, ils peuvent avoir une vision un peu mesurée, enfin une approche un peu mesurée de ce qu'il va falloir faire en termes de légifération, enfin de législation plutôt. En France, j'ai l'impression que la démarche sera d'interdire a priori. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'a priori. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui pose problème, il faut l'interdire, peu importe s'il y a un contexte dans lequel il est valable.
En l'occurrence, les amendes dont tu parles et les interdictions dont tu parles viennent des États-Unis. Bon, accessoirement, on n'a pas vraiment de Google Glass en France encore, mais bon. On verra, ça sera un autre sujet, encore un autre sujet
si
intéressant.
Le cadre juridique, je pense qu'il va sûrement, c'est ce qui va se passer, c'est exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Le cadre juridique va être vraiment sévère, strict, et au fur et à mesure que l'usage s'installera, les choses se mettront en place.
Oui. Bon,
mais
verra.
En tout cas, je
on
pense que dans 10 ans, il y en aura beaucoup dans la rue.
ça c'est un autre sujet. On verra. Moi, je crois plus aux montres et aux choses comme ça qu'aux glaces. Mais peut-être.
C'est pour moi de la transition, mais effectivement, c'est une belle transition déjà.
Bon, écoutez, on a fini nos 3 grosses infos à retenir. On a parlé du Nexus 5, d'Android et Samsung, et enfin des PhoneBlocks ARA/Google Glass et de ce genre de technologies innovantes. On va maintenant passer à nos news et rumeurs sur lesquelles on passe un petit peu plus rapidement. Si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez commenter, vous m'arrêtez. Je vais commencer avec la guerre des brevets qui, selon les titres de Ars Technica, passe à l'option nucléaire. C'est-à-dire que vous vous souvenez peut-être, il y a quelques mois, un conglomérat composé de Microsoft, Apple et d'autres a racheté des brevets de Nortel qui avait une énorme collection de brevets sur la téléphonie mobile, et ils ont constitué une société qui s'appelle Rockstar, qui est complètement indépendante et qui gère ses brevets. Google avait voulu les acheter aussi, ils n'avaient pas réussi. Et c'est suite à ça qu'ils ont acheté Motorola, sans doute en partie pour se protéger au niveau des brevets, puisqu'on le sait, les brevets sont le nerf de cette guerre industrielle depuis quelques années. Eh bien, figurez-vous que Rockstar a lancé une série de procès pour défendre ses brevets, alors qu'a priori, on avait compris qu'ils ne seraient pas utilisés de la sorte. Alors, Rockstar explique qu'ils sont indépendants de ses propriétaires. C'est techniquement vrai, mais on a un petit peu de mal à imaginer qu'ils ne soient pas quand même au courant de ce qui se passe. D'un autre côté, on a Google qui est considéré comme une victime, mais en même temps, avec Motorola, ils avaient quelques procès à eux qui étaient en cours et qui avaient commencé, qui n'étaient quand même pas joli non plus. L'enseignement que j'en tire, c'est que la guerre des procès commençait à se calmer un tout petit peu depuis, allez, un ou deux ans. On avait l'impression que ça commençait à se calmer. Là, ça a l'air de repartir de plus belle, et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Au final, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des accords croisés de licences, et voilà. Et c'est simplement un processus un petit peu douloureux. Mais bon, ça va, c'est pas forcément le meilleur moyen de faire les choses, mais ça semble inévitable.
Là, mais ça, c'est comme tu dis, c'est inévitable. Moi, ce dont j'ai peur, après, c'est pas le débat sur les brevets, mais c'est que ça ferme la porte à pas mal d'acteurs.
Ça peut arriver aussi, oui. Ça privilégie les gros qui ont de quoi se défendre parce que tout ça coûte très très cher. Bon, d'un autre côté,
pour moi, ça casse un peu la liberté qui fait que dans un marché,
il y a du mouvement. On a tendance à oublier aussi que toutes les grandes périodes de d'effervescence industrielle et intellectuelle ont été accompagnées de ce type de combat jusqu'à le début du siècle. On a eu des problèmes de brevets immenses dans le cinéma, par exemple, les technologies des caméras étaient le sujet de combats terribles. On a eu des questions sur l'électricité, on a eu etc. etc. Donc c'est pas quelque chose qui date d'hier. Au final, on s'en sort pas plus mal, mais il faut que la période se passe. Et puis n'oublions pas aussi que ces questions de brevets veulent dire que une fois que la période d'exclusivité d'utilisation du brevet est passée, c'est-à-dire 18 ans, eh bien la technologie est disponible pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça que ce système a été implémenté. C'est pas simplement pour attribuer la propriété d'une technologie à une entité indéfiniment, on lui attribue pour 18 ans et après tout le monde peut l'utiliser. Donc ça a aussi un aspect positif sur le long terme.
Et ce qui est marrant, c'est que quand on voit des sociétés s'écrouler, c'est le cas de BlackBerry ou de Nokia, finalement c'est quand on fait le compte après pour la valorisation, ce qui pèse le plus lourd.
Dans... Vrai, ouais.
Et ça permet à la société d'un petit peu sortir par la grande porte, j'ai envie de dire, parce que sinon ils sortiraient à des sommes
un petit peu
ridicules par rapport à leur... à ce qu'ils auraient pu valoir des années auparavant.
C'est vrai. Des chiffres de satisfaction des utilisateurs. Alors, monumentale nouvelle dans le monde des tablettes. On a la première étude de J.D. Power, qui est un cabinet d'études très connu, qui attribue à Samsung une note supérieure à celle des appareils Apple. Pour les tablettes, hein, on parle. Alors, on n'est pas à des notes invraisemblables de différence. On a 835 pour Samsung et 833 pour Apple. C'est vraiment un événement parce que Apple, et l'un des gros avantages d'Apple qu'ils mettent en avant régulièrement, c'était la satisfaction des utilisateurs. Donc, c'est une nouvelle importante. Maintenant, quand on y regarde un petit peu plus près, quand on regarde cette étude d'un petit peu plus près, On peut dire quand même des choses sur le système de notation. Apple a 22 étoiles, entre guillemets, et Samsung en a 18. Et malgré ça, la satisfaction est supérieure chez Samsung. Pourquoi ? Parce que la tabulation, le poids des différentes catégories est différent, justement. Et en l'occurrence, le prix est un facteur de satisfaction important chez Samsung, et le prix a un poids très important dans la notation finale. Donc, En gros, c'est le prix qui fait la différence, ce qui est quelque chose de très important, hein, évidemment. Ça rentre en ligne de compte, parce que si on paye un truc pas très cher et qu'il est excellent, eh ben on sera peut-être plus content que si on paye un truc très cher qui est juste très bien. Mais bon, ça donne quand même une certaine mesure sur cette étude. Voilà, c'était une chose à préciser, mais c'est quand même quelque chose d'important. Bon, ça vous inspire pas beaucoup, mais je sais qu'il y a quelque chose qui va vous faire bondir. Pour le petit Larousse, aujourd'hui, le mot digital est désormais synonyme du mot numérique. On sait évidemment que digital est un anglicisme odieux. C'est moi qui dis ça, et bon, vous savez que je le dis avec un petit peu d'ironie dans la voix. Ça a fait bondir en tout cas nos camarades de l'informaticien. Voilà, ils disent, ils ont cité notamment Stéphane Bortzmeyer, qui disait sur Twitter, excusez-moi, la langue française est morte ce matin, le Larousse explique que digital est synonyme de numérique, fin du monde en hashtag. Bon, est-ce que ça vous fait sauter au plafond ?
Non, pas vraiment. Moi, digital, j'ai un profil marketeur, j'utilisais beaucoup en marketing.
Oh mon Dieu !
Oui, voilà, moi aussi. Hein.
Bon. Et puis, honnêtement, je suis breton, comme tu dis, mais je suis très proche du Québec et j'ai souvent tendance à être assez contre les anglicismes, même si je les utilise trop.
Et celui-là ne choque pas plus que ça, non ?
A priori, Larousse a intégré ça sans consigne particulière. C'est-à-dire que des fois, quand il y a les nouveaux mots, les néologismes qui apparaissent tous les ans, il y a une période où on nous présente de nouveaux néologismes. Là, il n'y a pas eu ce genre de démarche. C'est simplement Larousse qui statue pratiquement que, voilà, on peut considérer que l'un est le synonyme de l'autre. Mais honnêtement, après, tout dépend de la sensibilité de la personne qu'on a en face de soi. Si on y va pour un entretien d'embauche, si on va à un entretien d'embauche et qu'on se retrouve face à quelqu'un qui a plutôt un profil international, digital va peut-être lui faire mal aux oreilles.
Oui, c'est sûr.
Alors que celui qui aime bien les termes un peu ronflants. Dans le marketing, un petit peu. Bah, c'est vrai que digital, ça va lui parler un peu plus. Ouais. Ça va faire un peu plus in.
Bah, c'est marrant. Pardon, Philippe Guillaume.
Oui, non, voilà.
C'est marrant parce qu'il y a un parallèle qui peut être fait avec la manière dont est déterminée la langue anglaise, qui est déterminée par les dictionnaires, justement, certains dictionnaires qui font référence, en fonction de l'usage. Donc, évidemment, les choses évoluent en fonction de l'usage, hein, et puis parfois, il y a des choses qui changent. Vous savez qu'en France, on a évidemment l'Académie française qui détermine... C'est l'Académie ou l'Institut qui détermine les nouveaux mots Ah, je sais, c'est l'Académie, hein.
C'est l'Académie.
Oui, je vais pas dire de bêtises. Ouais. C'est l'Académie, donc, qui détermine, qui dit ce qui est français ou ce qui ne l'est pas. En anglais, c'est l'usage et les dictionnaires reconnus. On a certains termes qui évoluent, qui font sauter au plafond certains Américains et certains Anglais aussi, comme par exemple le fait que littéralement, a récemment été admis comme un terme qui ne voulait pas dire littéralement, mais juste une manière de mettre de l'emphase. Je peux vous assurer que mon flux Twitter a explosé. oui, non, mais c'est un abus de langage qui a été légitimé par les dictionnaires anglais, en tout cas, il y a peu de temps. Là, en l'occurrence, bon, bah, la langue évolue, et effectivement.
C'est marrant parce que moi, j'utilise toujours dans le contexte de traduction.
Bien sûr, oui.
Bah oui. Littéralement traduit.
Il y avait un terme qui avait posé problème aussi, c'était hashtag qui avait été traduit en mot dièse. Or, il se trouve que la dièse, c'est plutôt une note de musique. C'est dans un contexte musical qu'on a utilisé la dièse et que dans le cadre de hashtag, il aurait fallu utiliser. Je me souviens plus ce que c'est, mais c'est. Je ne sais plus le terme, mais dièse ne correspond pas à la réalité. Enfin, à ce qu'est réellement le hashtag.
C'est la même chose que digital. Souvent, on parle de numérisation, on parle vraiment au sens technique. Et digitalisation, on dit souvent digitalisation des services. Pour moi, ça signifie pas la même chose.
Bon, écoutez, en tout cas, si vous faites partie des amoureux du français qui sont choqués par cette synonymie, vous pouvez aller adresser vos insultes à l'endroit de Larousse. Nous n'y sommes pour rien. Netflix.
En tout cas, ce qui prouve qu'ils existent encore. Mais
ouais. Oui, bah écoute, c'est déjà ça. C'était peut-être exprès. C'était peut-être pour faire le buzz. Ils ont trollé Internet. Netflix a une idée plutôt intéressante qui avait déjà été évoquée il y a quelques temps, mais Netflix pourrait peut-être la réaliser. Ils voudraient produire des films eux-mêmes et des gros films de cinéma qu'ils proposeraient en visionnage, en achat ou en tout cas par abonnement à Netflix directement chez vous le même jour que la sortie en salle. Bon, alors évidemment, ça provoque énormément de problèmes parce qu'il faudrait que les exploitants en salle acceptent qu'un film soit disponible à la télé en gros au moment où il est sorti en salle. C'était déjà arrivé, mais uniquement pour certains petits films indépendants, donc c'était un petit peu particulier. Netflix voudrait le faire avec des vrais gros films, et depuis qu'ils ont produit des séries de grande qualité comme House of Cards par exemple, on comprend qu'ils pourraient en être capables. Alors la question devient, est-ce que vous seriez intéressé par l'idée d'acheter un film pour le regarder chez vous le jour où il sort en salle?
Moi, j'ai envie de dire ce qu'ils sont en train de faire. Il y avait deux choses. Déjà, est-ce qu'ils sont assez gros pour le faire? Peut-être, aux États-Unis en tout cas. La deuxième chose, c'est est-ce que le cinéma va mal? Finalement, ça a pas mal baissé, mais il résiste bien. Donc, il est quand même assez gros pour pouvoir encore avoir un mot à dire. Mais moi, personnellement, ça répond pas à ta question. Personnellement, j'aimerais bien, je trouve ça intéressant comme mais c'est vrai que l'expérience cinéma, c'est vraiment dans la culture maintenant, donc
Les études Adopi qui existent depuis 2009 montrent que au contraire le cinéma se porte très bien et fait partie des médias culturels qui ne sont pas touchés par le problème du téléchargement illégal, de ces choses-là, hein. C'est même pas en train de stagner, c'est plutôt en progression. Bon, voilà, c'est juste un aparté. Après, sur le plan de la chronologie des médias, je pense que en France, ça n'a aucune chance de passer. Je pense que quelque chose comme ça qui arrive en France, on va faire exactement la même chose que pour l'histoire des taxis avec Uber. comme on leur a obligé à avoir 15 minutes de délai, voilà, je pense que... Voilà, il y aura un amendement spécifique, un amendement Netflix qui dira, Netflix non, Netflix c'est une semaine.
Oui. Mais c'est une semaine de décalage. Mais ça marchera avec quelques personnes et quelques Français comme Canal+ ou TF1, hein.
Peut-être. Mais à vrai dire, une semaine, ça serait encore acceptable. Moi, je pense que effectivement, moi j'aime beaucoup le cinéma, hein, j'y vais régulièrement, mais je pense qu'il, moi j'habite à Paris aussi, donc le cinéma c'est à 5 minutes à pied, littéralement à 5 minutes à pied. See what I did there? mais il y a beaucoup de gens qui sont peut-être un petit peu plus loin, et puis surtout je pense à des gens qui ont des enfants pour qui le aller au cinéma, ça veut dire vas-y que je te mets toutes les affaires dans la voiture et le siège bébé et le bébé qui crie, enfin le bébé, les petits qui crient, et puis ils veulent du pop-corn et puis ils veulent du machin. Franchement, tu leur proposes la même chose à enfin le film à aller 30 ou 35 euros, d'une part ça reviendra finalement moins cher que toute la sortie et ils seront très intéressés. Donc bon, ensuite est-ce que c'est faisable dans l'industrie avec les acteurs qu'on connaît, c'est une autre question, mais un jour peut-être, pourquoi pas.
Mais ça marcherait, c'est sûr que ça marcherait, mais après culturellement parlant
oui c'est vrai.
Ça serait, moi je trouve que ça serait dommage. Mais...
Bon, vous savez quoi, il y a un truc qui va réussir à nous faire rêver tous les trois ensemble de concert. Là pour le coup on va s'accorder. Meg Whitman, la présidente de HP, a annoncé que la société était prête à rentrer sur le marché des imprimantes 3D dès la moitié de l'année prochaine, dès la mi-2014. Alors là, je me prends à rêver parce que ceux qui écoutent l'émission depuis un moment savent à quel point je suis enthousiaste à l'idée des imprimantes 3D. À mon sens, ça va être un énorme changement dans énormément de domaines. Le fait de pouvoir enregistrer, de pouvoir imprimer des objets, ça veut dire effectivement que les objets réels, physiques, tangibles sont, et là je regarde Ulrich, digitalisés. Et donc ça change énormément de choses. Bon, on va pas repartir sur ce que permettent les imprimantes 3D, mais le fait qu'HP se lance dans la course bientôt, c'est plutôt enthousiasmant, non?
Mais c'est comme Motorola avec le Phonebox. j'ai envie de dire, dès qu'il y a un gros qui commence à s'y intéresser, c'est qu'on passe à une étape supérieure.
Guillaume, ça te plaît
aussi. J'ai du mal à y voir un intérêt personnel.
Oh non, on était justement
pour fabriquer son smartphone ou son PC, ça peut être pas mal.
Ouais, enfin, un smartphone en bois ou en plastique.
Ah non, mais non. J'ai vu des gens fabriquer des voitures ou fabriquer des éléments de d'ordinateur.
Ça peut fabriquer des éléments en métal. Bon, je suis pas certain que ça fasse non plus des processeurs avec des circuits imprimés au micron près, hein, mais bon.
Oui, je suis pas totalement. En fait, je pense. Alors, c'est pas parce que c'est le point suivant, mais moi, ça m'obsède. Alors bon, c'est un bien grand mot, mais je pense beaucoup à cette histoire de création de pistolets, enfin d'armes à feu avec les imprimantes 3D.
Ouais.
J'ai vu les tests, j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus, j'ai même vu des vidéos YouTube. Je vais paraître un bisounours, quoi, mais ça m'horrifie. Je me dis, là, pour le coup, c'est le truc qu'on ne sait pas où ça va aller et on ne sait pas comment l'arrêter.
Ah, donc tu as peur du futur, Guillaume, tu as peur du futur, tu te rends compte? Mais c'est vrai que
non,
c'était
disons
le...
Que c'est... J'ai peut-être vu trop de films qui se passent dans le futur où je peux parfaitement imaginer à quoi ça peut amener.
Ouais. Bah, effectivement, le sujet suivant, c'était le fait que des services de police ont trouvé une usine à fabrication de pistolets fabriqués avec des imprimantes 3D. La raison pour laquelle j'ai mentionné cette histoire, c'est que j'essaye toujours dans l'émission d'avoir un sujet et autant que possible, de manière un petit peu objective ou pour présenter tous les éléments de l'argumentation, l'autre vision de la chose. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que le problème des armes à feu fabriquées par imprimante 3D est un vrai problème qui va, là encore, il va falloir savoir, comprendre comment fonctionnent les choses et adapter peut-être la législation à ce type de choses. Bon, maintenant, moi, je pense qu'il serait un petit peu dommage d'entraver cette technologie qui est extrêmement intéressante pour ces risques-là, mais les risques existent bien.
Je pense que ça peut relancer certains commerces. Je suis désolé de... Ça peut lancer certains commerces. Je pense que les imprimantes 3D, on pourrait les retrouver dans son quartier.
Tout à fait, oui.
Moi, je vois ce premier usage là. On n'en a pas besoin régulièrement, mais de façon un petit peu.
Ouais, on va au lieu d'aller chez Copytop où il y a des imprimantes pour faire imprimer son mémoire, on ira faire imprimer une pièce de rechange pour, je sais pas moi, la machine à laver.
Exactement, et je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous ces commerces là qui cherchent un petit peu à se renouveler depuis que tout le monde a une all-in-one dans son salon. Quoi.
Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a une tendance actuelle à observer que les citoyens, dans leur large majorité, ont tendance à vouloir se faire justice eux-mêmes.
Bon, alors, excuse-moi, je t'interromps tout de suite. Les citoyens, dans leur large majorité, quelle étude te dit que c'est les citoyens dans leur large majorité? Est-ce que tu ne serais pas en train de nous faire un petit peu de démagogie, là, Guillaume?
La définition du mot citoyen dans sa large majorité, pas le fait qu'ils sont nombreux. Ah. Ce que je veux dire, c'est que le citoyen est plus à tendance aujourd'hui à vouloir plus se faire justice lui-même qu'hier. Et quand je dis hier, c'est pas littéralement hier, c'est qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans.
D'accord.
Et c'est une tendance qui est mesurée aux États-Unis, c'est une tendance qui n'est pas mesurée en France parce qu'on n'a pas le droit de mesurer ce genre, enfin, qu'on ne mesure pas ce genre de choses, mais c'est une tendance mesurée aux États-Unis. Et je me dis simplement que vers quoi ça nous emmène.
Oui. Alors oui. Ah bah la question est légitime, hein, c'est sûr. Mais tu sais, le truc, c'est que les imprimantes 3D, elles vont arriver de toute façon. Donc c'est un petit peu comme essayer de combattre l'arrivée d'Internet ou ce genre de choses.
Ça va arriver,
par exemple, ou des montres, des montres Google Now. On peut essayer. Il est tout à fait juste de citer ces problèmes et ils sont tout à fait réels et ils sont tout à fait inquiétants. Mais ils vont arriver, hein. Les imprimantes 3D.
Non, mais en revanche, je suis conscient que l'imprimante 3D peut apporter des choses extrêmement positives pour plein de gens, notamment les artisans. C'est juste que, d'un point de vue vraiment purement personnel, je ne vois pas ce que je peux en tirer immédiatement. Un petit peu comme, alors je vais faire un parallèle qui est bizarre, mais un peu comme le jour où la tablette est sortie, moi je savais parfaitement à quoi elle allait me servir et j'étais entouré que de gens qui m'expliquaient pourquoi elle allait me servir à rien. Et moi j'étais persuadé que ça allait me servir à 15 000 trucs et ça s'est avéré. Là aujourd'hui pour l'imprimante 3D, c'est la situation inverse. Tout le monde m'explique que ça va être génial et moi je vois pas à quoi ça va me servir.
Je comprends, je comprends. J'ai vu aujourd'hui un exemple de sur le site de Corben, un enfant handicapé qui est né avec une main non développée en fait, qui a réussi à se faire fabriquer une main artificielle pour quelques dollars grâce à une imprimante 3D, et des gens qui avaient développé ce type de technologie ailleurs dans le monde, et il a réussi à se faire fabriquer une main artificielle en plastique qui fonctionne et qui peut se plier grâce à la flexion du bout de poignet qu'il a, et qui lui a permis, il a quelques, je sais pas, 5, 6, 10 ans, et il a sa main artificielle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans les imprimantes 3D, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça peut servir, mais ça offre de nouvelles possibilités. C'est-à-dire que, comme je le disais, un petit peu en plaisantant, on numérise le physique. Et à partir de là, les possibilités...
On digitalise le physique.
Oui. Bon, bref, continuons, continuons.
Mais ce qui manque, c'est des visionnaires, toujours.
Oui.
Toujours et encore, des visionnaires qui sont capables de créer des usages par rapport à ces nouvelles technologies... Et aujourd'hui, si les gens ont du mal à voir pourquoi ils ont besoin d'une montre, pourquoi ils ont besoin de lunettes ou pourquoi ils ont besoin d'une imprimante 3D, c'est qu'il manque encore ces usages.
Bon, eh ben on verra. De toute façon, celles-là, elles arrivent. C'est même pas des rumeurs ou du fantasme. Ça arrive. Bon, on va passer rapidement sur la suite. Intel prêt à fabriquer des puces ARM. C'est énorme, mais on va pas se lancer dans ce débat parce que...
Ils l'ont déjà fait.
Là, c'est un petit peu... Les choses sont un petit peu différentes, hein, mais bon.
Oui.
Des nouvelles instructions des autorités américaines vont bientôt autoriser, d'ici la fin de l'année, les passagers d'un avion à utiliser leur appareil, en mode avion toujours, hein, bien sûr, mais depuis le décollage et jusqu'à l'arrivée. Donc, si vous faisiez partie de ces gens qui faisaient à la limite une attaque cardiaque parce que vous deviez poser votre iPad ou votre Kindle pendant 10 minutes le temps que l'avion décolle, vous pourrez bientôt continuer à l'utiliser. Donc, vous pouvez.
Mais c'est intéressant parce que j'ai lu un article sur. Enfin, je me suis beaucoup intéressé il y a 2 semaines sur le Li-Fi, qui est la même chose que le Wi-Fi, mais ça utilise la lumière. Mm-hmm. Et justement, je pense que c'est quand on arrivera à combiner ce genre d'autorisation de cadre juridique avec des technologies comme ça, on va pouvoir peut-être, en plus de pouvoir utiliser sa tablette dans l'avion, de pouvoir là aussi la connecter grâce à des technologies comme le Li-Fi.
Ça sera magnifique.
Et là, on arrivera à quelque chose d'intéressant, mais bon.
Oui. Bon, bah écoutez, déjà pour le moment, le fait de pouvoir continuer à écouter le rendez-vous tech, j'allais dire d'autres choses, mais écouter le rendez-vous tech quand vous êtes dans l'avion, je pense que ça devra vous remplir de joie.
Mais tu sais, après, c'est de la sécurité, parce que moi, j'ai jamais vu ça comme un problème technologique. Je me suis juste dit, si on a des choses sur les oreilles, on est moins susceptible de réagir.
T'as raison, c'est effectivement. Bon, il y avait l'aspect des ondes, des réseaux dont on n'était pas certain des effets. C'était un petit peu plus de la prudence que des faits, mais il y a aussi le problème des appareils. S'il y a un problème au décollage ou à l'atterrissage, qui pouvaient voler, par exemple, et cogner les gens et faire des gros dégâts si c'était des trucs un peu lourds. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit d'utiliser des laptops, enfin des ordinateurs portables, parce qu'il faut que la tablette soit repliée. Et c'est pour ça, la tablette, la petite table siège, il faut qu'elle soit repliée. Et c'est pour ça qu'on ne peut utiliser que les tablettes et pas les ordinateurs au décollage. Enfin bon, bref. CryptoHack, j'ai même pas envie d'en parler, ça me donne des cauchemars. C'est un nouveau virus, un nouveau type de virus qui crypte entièrement votre disque dur et qui vous demande de payer $300, donc une somme encore relativement raisonnable. Sinon, ils jettent la clé, ils détruisent la clé qui permet de décrypter vos données au bout de 48 heures. Et ils le détruisent vraiment, et vos données sont perdues à jamais. Enfin bref.
C'est des bandits.
C'est horrible, mais
c'est banditisme.
Complètement, complètement. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que vraiment, ils cryptent vos données. Effectivement, ils les détruisent complètement si vous. Bon, bref. Nextdoor, un réseau social entre voisins. Je sais plus, je voulais en parler parce que on en a. À un moment, j'avais évoqué le fait que...
Désolé, je reviens rapidement, mais moi, j'aime bien les théories du complot et j'imagine que c'est peut-être un acteur du cloud qui est en train de... qui est en train de lancer ce genre de virus.
Ah oui, pour qu'on sauve nos données dans le cloud,
j'aime,
plutôt.
J'aime bien les théories
oui,
du complot.
C'est effectivement
surtout
un peu
quand elles sont gentilles comme
un
ça.
Un peu théorie du complot. Nextdoor, donc, c'est un réseau entre voisins qui a levé 60 millions de dollars aux US, qui vous permet de vous connecter en fonction de là où vous habitez, en fait. Et on parlait il y a quelques temps du fait que les... Oula, mon téléphone... C'est ma femme qui m'envoie des mots doux. Pardon, excusez-moi. Donc, on disait que le net permet de nous connecter à travers le monde et que finalement, on ne connaît pas trop nos voisins. Et bien là, Nextdoor, le réseau social entre voisins, lève 60 millions de dollars, c'est une bonne nouvelle. Guillaume, tu vas te précipiter sur Nextdoor pour pouvoir enfin avoir des conversations type Facebook avec tes voisins?
J'ai lu la présentation de Nextdoor, ça m'a paru assez intéressant. C'est très orienté voisinage américain. C'est-à-dire que j'arrive pas à me projeter avec mon voisinage franco-français.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des interactions qui ont l'air de pas se faire naturellement de la même façon.
T'as raison. Oui.
C'est juste le petit aspect qui m'a dérangé. J'avais l'impression dans la présentation de voir, si tu veux, le petit quartier de
Desperate Housewives, tout à fait, oui.
présenté tout mignonné, parfait, avec des petites villas bien séparées les unes des autres, oui. etc. Je me disais, moi, dans mon immeuble à 3 étages. Moi, je trouverais ça génial parce que, honnêtement, aller vers ses voisins IRL, hein, in real life, comme ça, là, je le fais pas naturellement. Ça me bloque et je me dis si j'avais une espèce de filtre virtuel, peut-être que j'irais et que dans un second temps, ça permettrait de passer à la rencontre physique.
Ouais, bah en l'occurrence, c'est effectivement, il fonctionne qu'aux États-Unis. Peut-être que s'il a du succès, il arrivera dans d'autres pays et il sera adapté, hein, évidemment. Mais bon, voilà, je voulais l'évoquer parce que c'est quelque chose de pas mal.
Je pense que c'est pas mal, effectivement. Moi, j'aime beaucoup et j'ai réfléchi beaucoup depuis plusieurs années aux réseaux locaux, aux réseaux sociaux qui utilisent la proximité. J'avais vu une expérience Intel qui utilisait, je sais pas si vous aviez vu, ces PC avec deux écrans, un écran derrière et un écran devant, qui permettait par exemple dans les réunions de pouvoir afficher
ça,
ouais. deux images différentes. Mmh. Ils avaient fait une expérience dans un bar où les gens étaient équipés de cet appareil, ils pouvaient communiquer des messages à travers l'écran qui était bien sûr derrière et par exemple, ça allait jusqu'à la drague, mais il y avait des choses très marrantes et j'ai l'impression que ça décoinçait un petit peu les gens qui étaient surpris et ça créait des interactions sociales qui auraient peut-être pas été là s'il y avait pas ce type de technologie. Et de mon côté, je travaille sur un petit projet personnel aussi pour pouvoir favoriser les échanges à proximité avec les gens qui nous entourent. Un peu comme le concept de Snapchat, c'est-à-dire de l'échange de données vraiment aux personnes qui sont à côté de soi des messages qui vont s'effacer une fois qu'on va quitter le lieu ou du contenu qui va s'effacer une fois qu'on va quitter le lieu. Et je crois vraiment à ce type de d'échange, en particulier dans des contextes précis, par exemple lors d'un match de foot ou lors d'un concert, mais aussi dans la vraie vie, c'est-à-dire dans un bar, à la poste, etc.
Est-ce qu'il a un nom ton projet, Ulrich ?
Oui, le projet a un nom. S'appelle Social Square. On appelle ça So Square dans notre. Je pense que ça va être lancé très vite, c'est sosquare.com, je pense que ça va être lancé dans un mois. On est en train de terminer la version Android et la version iPhone est prête. Et ça utilise pour le moment la technologie 3G et Wi-Fi.
Sosquare.com
Sosquare.com.
Il n'est pas encore lancé.
Ah non, c'est pas sosquare.com, c'est sosquare et en fait on a utilisé le .re. Ça fait
sosquare.re, d'accord, ok. Sosquare.re.
Ah oui, d'accord.
Et en gros, pour le moment, c'est assez simple. On se connecte, on a la liste des lieux Foursquare qui apparaît. On sélectionne le lieu Foursquare dans lequel on est, ou là où il y a des gens. On voit les gens qui sont connectés au lieu Foursquare. Et on va pouvoir communiquer avec les gens qui sont là. Il n'y a pas d'inscription, c'est-à-dire ça nécessite juste un pseudo et un avatar.
Bah écoute ça.
Et là, on va pouvoir changer des images, des photos, des vidéos, du son, des textes. Et dès lors qu'on part du lieu, le contenu n'est plus disponible. Et l'échange des données est intéressant parce que c'est du peer-to-peer. Du coup, c'est pas hébergé sur des serveurs. Une fois qu'on va changer une photo, on va l'échanger directement avec les personnes qui sont à côté.
Ah, ça me fait penser à deux choses. Déjà, il y avait une mode qui était je pensais aux clés USB, enfin au lieu où on laisse des clés USB volontairement, et la clé USB est un élément de partage, et n'importe qui peut venir piocher dans la clé USB et y laisser des choses également.
Y compris des virus. Il y a un peu de ça, ouais.
L'autre chose à laquelle je pensais, c'était dans une certaine mesure la piste que Nintendo avait essayé avec la 3DS, où lorsque on passe à côté de quelqu'un d'autre qui a une 3DS.
Le street pass.
Voilà, le contact se fait et on a le surnom de la personne qui vient s'ajouter à la liste des amis.
C'est le StreetPass, c'est vraiment une technologie incroyable. Je comprends pas pourquoi plus de gens n'ont pas développé ce genre de truc.
C'est génial.
Justement, sur SoSquare, on est en train de réfléchir pour utiliser du Bluetooth Low Energy, le Bluetooth 4.0, qui va permettre de façon passive d'émettre des données et d'en recevoir. Et là, ça va vraiment, je pense, révolutionner certains usages que la NFC, par exemple, n'a pas réussi à révolutionner. On parle du Bluetooth 4.0, mais chez Apple, on parle de iBeacon. C'est à peu près la même chose. Et ça, pour le coup, ça va vraiment faciliter tout ce qui est interaction locale.
Bah, espérons que ça donnera quelque chose. On continuera à suivre ça de près. Effectivement, c'est des choses plutôt enthousiasmantes. Continuons donc. Poursuite. Vous savez ce que c'est Poursuite ? C'est un réseau, un nouveau type d'architecture pour le net qui permettrait de développer un système de réseau et un Internet, en fait, sans serveur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça marche en peer-to-peer, etc. Mais c'est un concept qui pourrait fonctionner. Je ne suis pas certain que ça fonctionnerait pour tout, mais pour certaines choses en tout cas, un Internet sans serveur, ça pourrait fonctionner. Et ce sont des chercheurs de l'université de Cambridge qui ont développé ce projet. Et c'est pas juste un projet qui est lancé comme ça pour voir ce que ça donne. Ils veulent vraiment poursuivre les choses. Donc c'est quelque chose de très ambitieux. Ça, évidemment, ça ne donnera pas des résultats concrets tout de suite. Mais garder le nom de poursuite dans votre mémoire, ça risque de donner quelque chose.
Mais moi, j'y crois pas mal, et je trouve ça même dommage que on a longtemps parlé de peer-to-peer, on a longtemps parlé de toutes ces technologies. Aujourd'hui, on a des téléphones dans les poches avec des technologies comme la 4G qui permettent l'échange de données vraiment de façon ultra rapide. Et j'ai vraiment envie qu'on l'utilise au cloud quand il faut l'utiliser et pas toujours dans n'importe quel prétexte et contexte. Et je pense qu'on peut s'en affranchir pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que là, la volonté...
Je parle de serveur.
Bien sûr. Là, la volonté existe maintenant. Donc.
Dans une certaine mesure, ça me faisait penser également au... Bon, je suis un petit peu en décalage, mais par rapport aux box Internet, où dans chaque box, c'est Free qui faisait ça, par exemple, où on avait un accès qui était accessible à n'importe qui. En fait, le projet, à un moment, qui avait été imaginé, c'était de dire on met toutes nos box en libre accès intégral et on fait ça dans un quartier tout entier et on obtenait un maillage qui faisait que si on stockait les choses en local, on n'avait plus besoin de serveurs globaux, on pouvait de box en box récupérer des informations qui n'étaient pas forcément sur la box sur laquelle on se connectait, mais dans la totalité du totalité du réseau et sans serveur.
Ce sont des mesh networks, c'est un concept qui existe depuis longtemps effectivement et qui est assez intéressant. Là, c'est quelque chose d'un petit peu différent, mais les principes sont pas totalement incomparables, donc bon, on verra ce que ça donne là encore. Information et puis on va conclure. OS X Mavericks détruirait vos données si vous utilisez un disque dur externe, particulièrement disque dur de la marque Western Digital. Je voulais juste le mentionner. Faites attention si vous avez
un disque dur
USB. Il y a effectivement des gros problèmes visiblement. Donc si vous avez mis à jour pour OS X Mavericks et que vous avez un disque dur externe, particulièrement Western Digital, faites gaffe. Assurez-vous que vous avez vos données quelque part.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution pour pour les gens qui veulent quand même.
Ah bah pour le moment, attendez, vérifiez sur internet que tout va bien et attendez les mises à jour que va envoyer Apple parce que là c'est un petit peu inquiétant quand même.
Peut-être qu'ils peuvent passer par leur box s'ils ont par exemple une Freebox pour pouvoir accéder à leurs données
directement. Peut-être, oui, je suis, mais je suis pas sûr, donc je veux pas donner d'instructions. Simplement, si vous avez effectivement des données très précieuses sur votre disque dur. Renseignez-vous.
Pour le coup, peut-être qu'il faut être un petit peu alarmiste pour ce genre de choses.
Bon, et puis dernière chose, on n'a pas parlé d'Apple, vous l'aurez remarqué. Évidemment, c'est pas parce que je ne voulais pas le faire, mais c'est surtout parce que je l'ai déjà fait très longuement avec mes camarades Cédric et Jérôme dans le dernier épisode d'Upload, où on a parlé effectivement de la conférence d'Apple. Et alors, la question iPad, etc., c'était intéressant, mais il y a surtout eu une discussion assez longue sur l'aspect des évolutions logicielles, notamment vers la gratuité de certains logiciels d'Apple. On a eu une conversation assez longue qui était, à mon sens, intéressante et puis surtout très importante parce que ça a des conséquences auxquelles on ne pense pas forcément. Sur l'industrie en général, c'est quelque chose de très important. Si ça vous intéresse, je vous recommande, c'est la deuxième moitié ou peut-être même le dernier tiers du dernier upload. Je vais aller voir de quel upload
spécifiquement. Le titre, c'est Apple fait du freeware.
ouais, c'est ça pourrait être ça. C'est In Logiciel We Trust. C'est l'upload 176. Donc je vous encourage à aller l'écouter si ça vous intéresse. Bon, on n'a pas parlé de la NSA qui fait encore des siennes et qui écoute les Allemands et bien d'autres personnes. Il y a des gens qui commencent à proposer aux États-Unis de modifier les pouvoirs de la NSA, donc ça commence vraiment à bouger à ce niveau-là, mais il n'y a pas d'énormes changements encore dont on peut parler, donc on a laissé ça de côté. On n'a pas non plus.
Il y a une petite phrase qui me fait marrer, oui, concernant la NSA, désolé de te couper, c'est il y a beaucoup de gens qui me disent de toute façon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais j'ai envie de leur dire, on n'y peut peut-être rien, mais il n'y a pas besoin non plus d'être consentant.
Effectivement, on peut voir les choses comme ça. Une autre chose dont on n'a pas du tout parlé, j'imagine aux grandes dames de Guillaume qui aime les chiffres, c'est des résultats des différents grands de ce monde. Et quand je dis grands, je parle des grandes sociétés. En gros, Microsoft va très bien. Lumia, ça va plutôt pas mal, voire même très bien. Apple, ils vendent plein de téléphones et plein d'iPad, plus que l'année précédente, donc ça va très bien. Bon, en gros, voilà, tout le monde va bien. C'est peut-être pas exactement le cas, mais c'est le résumé que je vous fais aujourd'hui. On aura des détails peut-être plus intéressants sur les ventes des uns et des autres au début de l'année prochaine, parce que c'est vrai que le troisième trimestre n'est pas forcément celui qui est le plus significatif, comme le disait Guillaume tout à l'heure. Bon, eh ben écoutez messieurs, on arrive au terme de cette émission. Guillaume, tu nous disais plus de 2 heures la dernière fois. Là, on n'en est pas loin. Je pense qu'on
n'est pas loin. Oui.
Je pense qu'on va finir avant 2 heures quand même au final.
On est sous la barre.
On est sous la barre. Et je pense qu'on va y rester. Pendant qu'Ulrich nous fait des allers-retours.
Je suis vraiment désolé. Alors là, je vais citer mon opérateur. C'est Bouygues Télécom. Je suis câblé. Et là, je sais pas. Bah, j'ai des pertes de paquets pendant 20 secondes.
C'est bizarre. Hop, mais tu reviens. C'est l'essentiel.
Et je disais malheureusement, il y a dans le télécom, il y a très peu de Français. Donc la crise n'est pas si loin que ça.
J'ai pas compris ce que tu voulais dire.
J'ai dit, tu citais toutes les entreprises, oui, qui vont bien, les constructeurs, mais malheureusement, il n'y en a aucun Français. Ah. Et maintenant, il n'y en a plus d'Européens, vraiment.
Oui, bon. Oui, Nokia, bon, plus tout à fait, c'est vrai, tu n'as pas. Bon, écoutez, messieurs, en tout cas, je veux vous remercier très chaleureusement d'avoir été présents dans cette émission. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y aura pas de rendez-vous tech traditionnel pendant que je serai en lune de miel au Japon, vous m'excuserez, hein, je serai occupé ailleurs, donc je pars dans pas si longtemps, une dizaine de jours maintenant, mais ça ne veut pas dire que je vous abandonne totalement, puisque comme je le disais, on a enregistré un épisode spécial éducation. J'ai eu le plaisir et l'honneur de recevoir 3 invités vraiment intéressants. Vous l'entendrez dans 3 semaines, David qui est prof au lycée, Jean-Yves qui est universitaire et Nicolas qui est prof de grande école. On a eu un débat assez intéressant pendant, je sais plus, 1h30, quelque chose comme ça. Et on fait le point sur l'éducation et la tech et l'enseignement de la tech. Donc j'espère que ça sera un sujet qui vous intéressera et qui vous fera un petit peu patienter entre 2 épisodes du Rendez-vous Tech. Tech. Comme je le disais, il sera dans 3 semaines, ce qui veut dire qu'on a supprimé un épisode et on a bougé celui-ci d'une semaine pour qu'il tombe pile au milieu entre les autres épisodes traditionnels. Pour les épisodes traditionnels, on sera de retour, si je ne m'abuse, le 16 décembre avec un résumé de l'actualité. Donc, on a une longue période sans rendez-vous Tech et Actu. J'espère que vous survivrez. On a tout de même, évidemment, les autres émissions qui continuent, à savoir Upload pour vous donner des conseils d'app et Positron pour vous donner des conseils de produits super cool au cas où vous vous ennuyez. Ben, vous voyez, si vous vous ennuyez sans le rendez-vous tech, vous avez quand même Positron pour avoir des conseils de comics, de films, de musique, etc., etc. Je vais évidemment donner quelques minutes à Guillaume et Ulrich pour qu'ils nous disent où on peut les retrouver après la fin de cette émission. Et on va commencer par, tiens, le plus sage des deux, Guillaume, où vont les auditeurs?
Alors, on peut me retrouver sur statosphere.fr. La thématique, c'est les statistiques en général. En ce moment, je m'oriente beaucoup plus sur tout ce qui est modèle prédictif. Comment les startups qui sont capables de prédire les résultats des matchs de foot, qui sont capables de prédire les résultats de Miss France 2013, le succès d'un livre, etc. Voilà, c'est tout ce qui est modèle prédictif, si ça vous intéresse. Voilà, j'essaye de faire des articles régulièrement. En ce moment, c'est un peu en stand-by. J'ai un petit peu du mal à tenir la régularité, mais je vais m'y remettre.
D'accord.
Donc, statosphere.fr et sur Twitter, c'est statosphere également.
Super, merci Guillaume. Et pour toi, Ulrich?
Bah, moi, on me retrouve sur fondroid.com, bien sûr. J'écris tous les jours, même si maintenant je gère la société humanoïde. Mmh. J'ai également quelques petits sujets de prédilection en ce moment. J'ai écrit un article sur la sensibilisation au contexte dans le mobile en particulier, qui va être publié dans un livre blanc qui arrivera, je sais pas quand, avant la fin de l'année.
D'accord.
Et puis en ce moment, je m'intéresse aussi beaucoup aux objets connectés et j'ai écrit pas mal de choses dessus, en particulier sur les montres, où je fais j'essaie d'expliquer comment les montres peuvent devenir intelligentes parce qu'aujourd'hui elles sont seulement connectées. Mmh. Et voilà, je pense que je vais continuer jusqu'à la fin de l'année d'écrire pas mal sur ça.
Super.
Et on va préparer le CES tranquillement qui arrive au mois de janvier.
D'accord. Et donc tout ça, on le retrouve notamment sur, alors c'est quoi, humanoïde.fr?
Alors, humanoïde.fr, tu as une vitrine en gros. En fonction de ce que tu recherches, tu vas être redirigé vers du Windows, du Android et peut-être bientôt de l'iOS.
Vers Frandroid et Frawin. Pardon. Ouais.
Et là, on va lancer un site qui s'appelle iaddict.com dans les prochains jours, qui va être notre premier site positionné autour de iOS.
Magnifique. Super. Eh ben, écoute,
un de plus.
Très, très bien. un de plus, mais un de qualité.
On va essayer de le faire avec un positionnement et, différent de ce qu'il y a aujourd'hui, et avec un peu notre savoir-faire qu'on a acquis sur Frandroid, et aussi avec un peu d'intelligence, parce qu'on arrive un peu tard.
Bah écoute, c'est bien, ça vous motive, c'est pas mal.
Donc ouais, il aime bien du challenge.
Super, très bien. Et bah écoute, merci Ulrich, merci Guillaume. Pour ma part, vous le savez, chers auditeurs, vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est NotPatrick, et notamment, si vous voulez avoir un petit peu des nouvelles de mon voyage au Japon, vous pouvez aller me rejoindre là-bas, je suis sûr que je mettrai des informations diverses et variées. Et d'ailleurs, je l'ai mentionné dans d'autres émissions, mais je vais avoir un routeur 4G Wi-Fi, donc je serai connecté en permanence avec débit illimité, tout ça, qui a été loué.
Pendant tes vacances ?
Oui, oui, bah oui.
Ah, c'est pas
Non, mais tu sais, il faut si on est perdu.
C'est
si
moi
on
qui
est perdu.
Le dis, c'est quand même que...
Non, mais on
me le reproche tout le
temps. Mais ma femme aussi, il voulait. C'est quand même pratique, quoi. Si on est perdu, si on est machin, si on est...
Non, c'est ultra pratique. Tu vois, moi, c'est mon premier réflexe, moi, c'est acheter une carte SIM locale.
Ah bah oui, bien sûr. Mais bon, là, c'était plus simple, tu vois. Et puis, c'est vraiment pas cher. On a payé ça 70€ pour 15 jours, tu vois, pour avoir 4G illimité partout dans le Japon.
Non, mais t'as vraiment raison. Ça peut vraiment, surtout un pays comme le Japon. Toi, je sais que tu parles japonais, mais oui. C'est pour la plupart des autres personnes, oui. Le Japon, c'est un pays où il y a très peu de choses écrites.
En plus, oui.
Donc quelque chose de compréhensible.
C'est ça.
Voilà.
Mais tu sais, c'est vraiment aussi le plaisir parce que je voudrais partager mon expérience. Bon, vous attendez pas à des updates, à 3 updates par heure. Hein. Ça sera un petit peu de temps en temps, mais partager l'expérience avec tout le monde et puis ça fait partie du plaisir aussi de suivre et d'être suivi. suivi sur Twitter par exemple et sur tous ces réseaux. Donc bon, c'est sympa aussi. Encore une fois,
on va faire une émission spéciale Japon après.
Bah écoute, j'y ai pensé, oui, j'y ai pensé. Je sais pas exactement comment ça prendra forme si je le fais, mais peut-être sur la technologie. Mais en même temps, comme tu le disais, c'est quand même les vacances, donc je veux pas non plus transformer la chose en une expérience de préparation d'émission, si tu veux.
Oui,
parce que...
Non. Bah, dis-toi simplement que tu vas pas faire d'émission. Ouais, et ça se trouve,
c'est ça.
Tu auras peut-être une émission en tête dans ton avion.
Parce que comme tu vois les notes, ceux qui voient les notes de l'émission, je fais une veille conséquente et je prends énormément de notes et je suis très sérieux sur ces choses-là. Donc si je me dis je veux faire une émission sur la tech au Japon, chaque jour je vais devoir essayer de trouver des trucs, des machins. C'est
mais
pour ça que
t'absorbes inconsciemment quand je vais quelque
bien
part.
Sûr.
Moi maintenant je m'aperçois que ça travaille quand même. Quoi.
Oui, non, mais c'est sûr.
De
c'est
pas
sûr,
faire travailler.
C'est sûr. Mais tu sais, en plus moi qui ai vécu au Japon pendant plusieurs années, ça va me ramener tellement de souvenirs et d'émotions et de donc bon, c'est pour ça que je veux rien promettre. Mais...
T'as déjà des éléments de comparaison.
C'est
plus.
Vrai, oui. Oui. Mais bon, en tout cas, note Patrick sur Twitter, vous pourrez me suivre pendant mes aventures au Japon dans une certaine mesure. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, dans 3 semaines, le spécial éducation et tech, j'espère qu'il vous plaira. Et on revient 3 semaines après ça, donc en décembre, avec l'émission classique. Ça sera encore un petit peu chamboulé jusqu'à la fin de l'année parce qu'il y a les vacances de Noël qui approchent. Mais on vous prépare des petites choses. Normalement, ça devrait continuer à vous plaire. Et puis, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, Upload qui continue, Positron qui continue. Tout ça ne s'arrête pas. Donc, vous aurez quand même des émissions à vous mettre sous la dent et de la présence sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter. Et bien sûr, venez commenter sur frenchspin.com. Si vous avez des choses à nous dire sur l'épisode ou sur d'autres épisodes, vous pouvez toujours nous laisser des commentaires là-bas. On les lit, on y répond et ça nous fait toujours très plaisir et parfois même réfléchir, ce qui est pas plus mal. Merci à tous et bonnes vacances à moi-même et à dans quelques semaines.
Bonnes vacances.
Ciao à
bonnes
tous.
Vacances. Merci.
Bon bah c'est raté, on a dépassé les 2 heures.